Exactement, midi 2 minutes. Vous êtes en direct de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Pour nous rejoindre, vous le savez, 418-971-1021. N'hésitez pas à nous texter. On adore vous lire. On adore réagir avec vous. Vous êtes toujours très présents. Le midi est très dynamique. Également, blvd.fm, c'est la web radio. C'est une façon de nous écouter additionnelle. Et c'est les meilleurs moments qui vont se retrouver après l'émission. Notamment le caucus d'Antonine Iaccarini qui se retrouve aussi sur notre page YouTube. Quand même, petit 2 pour 1 pour l'ami Anto qui nous fait toujours des excellents caucus. BLVD 102.1 App Store, Google Play Store. Vous allez là-dessus, l'application. Vous pouvez nous suivre partout où vous allez. Et twitch.tv/BLVD/FM. Venez nous voir. Venez voir notre belle face en studio. C'est le retour de Pascal CV. Après ces deux semaines passées au pays des kangourous, Madame Savé, comment allez-vous?
Salut, ça va super bien. J'espère cool. que vous aussi.
Bien sûr.
J'ai vu que vous n'avez pas chômé durant mon absence.
On a eu plein de plaisir avec plein de politiciens, de Christine Fréchette à Joël Lightbaum.
Merci beaucoup aussi à Mathias. Hein, j'aime ça. Ah,
vraiment.
La part que les collègues font là, quand tu t'absentes. Mm-hmm. Moi, je me sens de très bonnes mains quand Mathias est là.
Et pour ceux qui s'ennuient, là, Mathias, bien, il sera avec nous aux alentours de 13h25 parce qu'on va revenir avec Alex Laramé sur cette défaite crève-cœur du Canada hier en hockey. 2-1 en prolongation contre les États-Unis, malgré le fait qu'on a dominé le match. Connor Hellebuck s'est levé dans un grand moment pour les États-Unis. C'est le gardien de but. Et Mathias va également revenir d'un point de presse de la Ville de Québec concernant l'optimisation des patinoires extérieures pour assurer leur pérennité. Une autre façon de dire qu'on ferme des patinoires extérieures. Mais c'est beau, hein, Antonine? Je vais optimiser les patinoires extérieures pour assurer leur pérennité.
On ferme pas. C'est de l'optimisation,
Jean-François. C'est de l'optimisation. Comme ça, je vais pouvoir en garder plus ouvertes.
Ben, écoute, c'est un bon objectif d'optimiser les choses. Hein? On peut pas être contre ça.
Ah, de la bouillie pour les chats, de la façon qu'on le dit, si tu veux mon opinion. Mais avant de commencer, l'excellent caucus Iaccarini, Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité aujourd'hui, là, les trois manchettes principales pour nos auditeurs?
Pas une journée sans qu'on nomme Donald Trump, mais cette fois-ci, c'est qu'on compare l'un de nos politiciens à Donald Trump. Ben, c'est pas n'importe qui le fait, c'est sûr, ce sont des syndicats. Mais on traite Bernard Drainville de futur Trump du Québec pour la fin de la permanence à vie des fonctionnaires. Donc, on voulait un peu contester ce qui se passait, puis surtout dire qu'il était intransigeant. Donc, le président Drainville, si c'était un président, un peu comme M. Trump, met de la pression sur les fonctionnaires et sur les personnes dans l'appareil public pour qu'ils changent les décisions s'ils prennent des décisions comme lui le veut. C'est ce qu'a dénoncé le président du SFPQ, Christian Daigle. C'était dans une entrevue avec le bureau parlementaire de Québécois. Sinon, un événement anti-avortement qui est annulé. C'est le début du procès de la ministre du Tourisme, donc le procès intenté au civil contre la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Et ça s'est poursuivi pour avoir annulé un rassemblement anti-avortement en 2023. Et ça s'est ouvert au Palais de justice de Québec aujourd'hui, donc il y a quelques minutes. Si je peux terminer avec une autre nouvelle cette fois-ci, c'est par rapport au Mexique, bien sûr. Les violences après la mort d'un chef de cartel, ça a pas mal pris notre fin de semaine, notre dimanche hier. L'armée qui déploie 2500 soldats dans l'ouest du Mexique pour s'assurer d'avoir normalement un petit peu plus de calme au niveau des rues du Mexique.
Dans la première heure du show, justement, on va parler avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, parce que l'armée est impliquée au Mexique. Donc, on va parler avec lui. Pascal a parlé avec un résident qui vit au Mexique, donc qui a vu et entendu de la violence hier. Et également, on va parler avec Gabriel Giguère de ces tarifs qui ont été annulés par la Cour suprême. Puis de la réaction de Donald Trump, 10 %? Mais non, c'est pas assez. Je me lève le lendemain matin. Can't, oui. Un 15 % par la tête.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Can't weigh un 15 % par la tête de Donald Trump. Et là, Bernard Drainville est rendu Donald.
Même affaire.
Pareil. C'est sûr, Bernard se lève à chaque jour et dit « Comment je pourrais faire pour anéantir le Québec? »
Est-ce que c'est ce qui s'appelle la démagogie, selon toi, Anthony?
Je sais pas. Je vais poser la question, me semble y répondre. Écoute, je conçois que M. Drainville mène une campagne en ce moment qui est un petit peu plus populiste.
Oui.
Mais de là à dire qu'on a Donald Trump, tu sais, à un moment donné, à force d'exagérer,
c'est
la fois où c'est vraiment grave puis que c'est vraiment rendu que tu peux comparer à Donald Trump et il te reste plus rien. C'est comme
exactement.
Le petit gars qui criait au loup. Maintenant, on n'écoute plus. Mais effectivement, M. Drainville a décidé de brasser la cage en promettant la fin des permanences dans la fonction publique. Il faut dire aussi que c'est plus la réalité est un petit peu plus nuancée que ça.
Là, la fin des permanences, c'est pour dire des gens qui vont l'avoir échappé, comme dans le dossier de sa clique,
voilà.
Au lieu d'y replacer à l'Office de protection du consommateur, moi, ils mettent dehors.
C'est ça.
T'sais, c'est pas je prends tous les employés du gouvernement qui ont une permanence puis j'enlève ça. Là.
Non, mais c'est vrai
ceux
que...
qui font pas à job.
Ouais, mais c'est vrai que ça choque les gens de savoir que, mettons, que tu l'as vraiment échappé là, et que tu
n'as
pas atteint les objectifs de ton emploi. Au lieu de te faire dire, là, voici la porte,
c'est ça.
Tu te fais mettre sur une autre tablette dorée avec les mêmes conditions de travail.
Exactement.
Ça frappe l'imaginaire. Et effectivement, je ne suis pas sûre que c'est à l'avantage de la performance de la fonction publique. Par contre, si tu vas complètement de l'autre bord et que tu dis, finis les permanences, puis que tu commences à baisser les conditions de travail et les avantages de travailler dans la fonction publique, ce qui risque d'arriver, c'est que la fonction publique devient moins compétitive. Parce qu'on n'attirera pas nécessairement des talents en ayant des mauvaises conditions de travail. Mais bref, M. Drainville le sait très bien. Il a décidé d'avoir une campagne qui est très axée sur l'efficacité, un peu plus l'aspect adéquiste de la CAQ. Donc, c'est dans la même lignée. C'est très cohérent de la part de M. Drainville. Puis c'est dans l'air du temps, parce qu'avec ce qui s'est passé avec sa clique, on a une impression d'impunité. Puis tu te donnais un exemple, effectivement, quand le PDG de la
CAQ... Denis Marsolais, là.
Qui s'est retrouvé, puis qui a fait plusieurs jobs de grand mandarin de l'État, dans lesquels ça n'a pas tout été catastrophique non plus, il faut le dire. Mais ce n'était pas la bonne personne, à mon avis, pour mener un virage numérique. Et il n'y avait personne au CA non plus qui était compétent pour faire un virage numérique. Est-ce que ça voudrait dire que M. Marsolais, par exemple, ne serait pas utile nulle part ailleurs dans l'appareil gouvernemental? J'en doute. Moi, je trouve que le problème, c'est de mettre les mauvaises personnes au mauvais endroit.
Tu as tellement raison.
Enfin,
tu as raison à 100%. Belle annonce, cependant, de Bernard Drainville, pour continuer avec lui, par rapport aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un communiqué de presse qui est rentré où on abolirait la taxe carbone pour eux et on remettrait cet argent-là directement dans un compte en banque disponible pour eux, directement dans le compte en banque des agriculteurs. Ça, les agriculteurs ont besoin d'une bouffée d'air frais.
Oui, c'est pas facile d'être agriculteur en 2026, puis surtout avec tout ce qui s'en vient avec les négociations dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça va être beaucoup d'anxiété aussi pour le secteur agricole. Si on veut se positionner comme plus adéquiste, même se rapprocher un peu des positions du Parti conservateur du Québec, la bourse du carbone, c'est un petit peu un élément qui flotte dans les airs en ce moment. Parce que, le Carney a éliminé la taxe carbone dans le reste du Canada. Nous, on ne faisait pas partie de la taxe carbone, mais le Québec fait partie de la bourse du carbone. Et ça revient un peu au même, c'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas la taxe directement quand vous allez à la pompe, mais on vous charge à quelque part la participation
exactement.
À la bourse du carbone. Et sortir de la bourse du carbone, c'est pas si simple non plus.
Non, parce que là, c'est une affiliation avec plein d'autres organisations et États, notamment l'État de la Californie.
Puis ça crée une certaine instabilité au niveau des marchés parce qu'il y a tout un marché entourant, en fait, financier, entourant les crédits carbone. Je vous passe les détails de ça, mais ça pour dire que je trouve que de faire des compensations, c'est plus intelligent que de dire « j'annonce que je sors de la bourse du carbone », ce qui serait sûrement très populaire sur le coup, mais qui, je ne suis pas sûre, serait la décision la plus judicieuse à faire. Donc, bref, Bernard Drainville continue de proposer. Et de l'autre côté, on a Christine Fréchette.
Oui.
La plupart des gens pensent qu'elle est en avance dans la course. C'est un peu difficile de dire avec vraiment de la certitude qu'elle est en avance dans la course, parce que les indices qu'on a, c'est le nombre d'appuis des députés. Et les sondages généraux.
Oui, c'est ça, c'est pas les sondages militants.
Exactement, mais il semble avoir une avance importante. Et elle fait une campagne beaucoup plus pépère, on va dire ça comme ça.
Exactement, on l'écoute justement à son rassemblement de samedi où elle dit avoir démontré l'union de la force avec 450 personnes qui étaient là et les nombreux appuis.
Les défis, ils sont complexes. On ne peut pas les régler avec des solutions simplistes. Et comme femme d'État, je veux être reconnue pour mes résultats plutôt que mes coups d'éclat ou mes sautes d'humeur.
Et là, c'est l'ovation. C'est une attaque directe à Bernard Drainville sans le nommer.
Absolument. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est sûr que c'est facile d'avoir des lignes de com qui sont punchées, qui rentrent dans le tas et tout ça. Elle sera peut-être un peu moins flamboyante, mais promet des solutions peut-être plus poussées, plus documentées. Puis je trouve que finalement, le dossier du troisième lien était une démonstration de tout ça.
Avec les deux dernières semaines, j'étais pas là, mais j'ai suivi l'actualité. Puis c'est intéressant aussi de pas avoir toute l'info, mais plus le fume, là, l'environnement, l'aura de tout ça. As-tu l'impression, Antonine, que la CAQ se divise un peu plus que dans une autre course à la chefferie parce qu'il y a plus d'attaques un petit peu? C'est plus aigri, c'est plus spicy, c'est plus...
Ben oui, jusqu'à un certain point, la course de la CAQ, ça brasse parce que... peut-être que les attaques contre les candidats sont pas si virulentes. Elles le sont, mais pas tant que ça. Mais en coulisses, c'est assez tendu entre les équipes. Et c'est une équipe qui travaille au gouvernement en ce moment. Donc, c'est des vrais dossiers avec des vrais cabinets, avec des vrais staffers qui font des vraies choses. Donc, les impacts d'avoir de l'animosité entre les équipes sont plus grands que si tu es dans l'opposition. C'est sûr, c'est plate là, de chicaner dans l'opposition, mais c'est un petit peu moins tannant que quand il faut que tu mènes vraiment des dossiers.
Mais en même temps, j'ai l'impression que ça redonne vie à la CAQ.
Ben, absolument. On les disait morts.
Il y avait besoin de ça.
Exactement. Et on verra évidemment l'issue de cette course-là. Mais moi, je me dis, c'est long finalement. Parce que tu sais, des courses à la chefferie, des fois, ça dure six mois, 9 mois. Celle-là, elle dure quelques semaines. Hey, il reste 7 semaines.
Ouais, je le sais, mais là, Bernard frappe, là. Donnons à César ce qui revient à César. Bernard brasse la soupe pas à peu près. Là.
Ben, il abrase, mais en même temps, je me dis, 7 semaines encore de ça, conjugué avec le pauvre François Legault.
Ah oui.
Qui, honnêtement...
Puis la pauvre CAQ qui essaye de gouverner, puis là, ça avance, recule. On l'a vu sur la Constitution avec Simon Jolin Barrette vendredi.
Ben c'est ça. Donc, moi, encore 7 semaines de ça, je trouve que c'est un peu un calvaire pour la CAQ. Mais en même temps, t'as raison, ça les a sortis d'un marasme dans lequel ils étaient. Puis cette démission de François Legault a ouvert une fenêtre qui n'existait pas avant. On s'en allait vers 0 député. Puis là, ben l'espoir renaît, en quelque sorte, dans les rangs caquistes. Puis parlant de chicane, ça m'a bien fait rire ce matin en voyant que Luc Provençal, député de Beauce-Nord, lui, il trouve que le tracé du troisième lien, c'est pas le bon, celui-là, le tracé central. Mais ce qui est drôle, c'est que Luc Provençal, il appuie Bernard Drainville dans la course et Bernard Drainville appuie le tracé central puis veut aller là, rapidement avec ce projet-là, alors que Christine Fréchette, elle, milite pour un tracé à l'est. Donc, c'est un petit peu particulier comme situation. Et lui, il dit que c'est du monde à Montréal qui a décidé ça, que ça allait être un tracé central. C'est le cabinet du premier ministre, finalement, qui avait tranché, puis c'est une gang de gars de Montréal. Donc, c'est le fun qu'il n'ait pas la langue dans sa poche pour nous, mais je ne sais pas si M. Drainville trouve ça très agréable aujourd'hui.
Ouais, puis c'est là, ça revient au fait que faut en faire un troisième lien. Fait que c'est pas grave, c'est un mauvais projet, on le fait. T'sais, ça, c'est un argument très faible de Bernard Drainville. Il l'a dit sur nos ondes la semaine dernière dans Marceau le matin. Là.
Ouais, mais je suis d'accord aussi à un moment donné qu'il y a tellement eu de niaisage, mais ça ne veut pas dire faisons n'importe quel projet.
Ben, c'est ça, là.
Qui va coûter quand même plusieurs milliards. Puis ça revient à la clip que tu as mis de Christine Fréchette qui dit les solutions simplistes à des enjeux complexes. Mm-hmm. Ben, ça l'illustre assez bien, finalement.
Ben, souviens-toi comment ça a rebondi très positivement, sa prise de position sur la mobilité en général pour la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches la semaine dernière. D'ailleurs, vous pouvez réécouter sur blvd.fm l'entrevue qu'on a fait mardi dernier avec Christine Fréchette. Ici même à l'émission On en jase. On est dans le caucus avec Antonine Iacarini, segment du lundi au jeudi de 12h05 à 12h30 environ. Anto, est-ce qu'on va avoir un 7e député du PQ ce soir? Je crois bien que oui.
Je pense que le PQ va avoir son 7e député. En fait, sa 7e députée, une
oui,
deuxième
c'est vrai,
femme
une deuxième
dans le caucus.
Femme.
C'est quand même particulier là, à quel point le PQ a commencé cette législature en 2022 avec seulement 3 députés. Les projections leur mettaient 2 députés au départ. Paul Saint-Pierre Plamondon avait réussi à gagner sa circonscription par un concours de circonstances
ouais,
exceptionnelles.
C'est ça. Hein, on se le rappelle, la candidate de Québec solidaire a été prise la main dans le sac par une caméra, a volé dans une boîte aux lettres le tract, autrement dit, le pamphlet de Paul Saint-Pierre Plamondon et mettre le sien et partir en voleuse avec le pamphlet de PSPP. Fait que ça y a enlevé toute crédibilité.
Non seulement ça y a enlevé de la crédibilité, mais elle n'a pas pu se présenter. Le QS l'a retiré et il était trop tard pour présenter un autre candidat. Donc,
la voie était pavée.
Peut-être que PSPP aurait gagné pareil, mais laisse-moi en douter. Donc, déjà, on commence la législature avec 3 députés.
Hey, je pense à ça vite, vite. Là. Je m'excuse de t'interrompre. Mais ça veut dire que sûrement que notre prochain premier ministre a été élu sur un vol de pamphlets en premier lieu.
Vois-tu comment la politique peut nous réserver toutes sortes de
c'est
surprises?
Fou
c'est
dans
dur hein, de faire des prédictions béton dans ces circonstances-là.
C'est complètement fou.
Et le PQ, par la suite, a gagné les circonscriptions dans le cadre d'élections partielles une à une, et ça, pas à cause des vols de pamphlets, mais bien à cause d'un contexte politique bien particulier. Donc, il y a eu l'élection partielle dans Jean Talon à Québec, ensuite, il y a eu l'élection partielle dans Terrebonne, ensuite, on a eu l'élection partielle dans Arthabasca, et là, aujourd'hui, les électeurs de Chicoutimi vont voter pour remplacer André Laforêt, qui était la caquiste qui était en place et qui a démissionné pour s'essayer à la mairie, mais ça n'a pas fonctionné. Et Chicoutimi, c'est la circonscription dans laquelle la CAQ a eu la victoire la plus éclatante en 2022. 62,3% des électeurs avaient voté pour la CAQ.
Hey, c'est pratiquement un score dictateur. C'est ça, soviétique. Voilà, c'est le meilleur terme.
Et là, le PQ en 2022 avait eu seulement 14% du vote. Et là, selon les projections, écoute, moi, je prévois là, que le PQ emporte assez aisément là, entre 45 et 50 du vote selon le site de projection Québec 125. Et c'est la CAQ qui se retrouve à 13%. Donc, on inverse un peu les rôles. Et le challenger du PQ, celui qui... Tu sais, la course à deux se fait beaucoup plus avec le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a présenté une ancienne mairesse de la région, Catherine Morissette, et qui a fait une bonne campagne, là, somme toute, là, avec pas mal d'exposure, une campagne très, très active. Donc, le Parti conservateur, ce serait étonnant qu'il l'emporte, mais quand même, Éric Duhaime va ressortir de cette élection partielle en montrant qu'il est compétitif en région, dans des circonscriptions que le PQ peut reluquer. Puis pour les autres partis, ben le but, c'est quoi? C'est d'essayer de limiter les dégâts le plus possible. On a un nouveau chef au Parti libéral qui ne va pas commencer sur une victoire en partielle. On a la CAQ qui risque d'avoir une chute quand même assez importante. Ils ont présenté un candidat qui n'est pas un CV exceptionnel, qui est un jeune, puis bien ben gentil, puis que tout le monde trouve bien sympathique.
Qui fait de l'humour!
Qui fait de l'humour, d'ailleurs, on en a parlé récemment à l'émission.
Au gang show!
Et QS, à noter que QS envoie des députés ce soir pour soutenir leur candidate.
Ben là, il est temps.
Ils ont appris.
Ben, il a appris de Terrebonne.
Où
leur candidate est rendue qu'à travailler pour Catherine Jean.
C'est
con.
Ben, tellement qu'ils ne l'ont pas soutenu, elle est rendue au PQ. Fait que, ça va bien.
Hey, je te laisse entendre un extrait de Marie-Carline Laflamme, qui est la candidate justement au PQ. C'est lorsqu'elle a été nommée comme candidate. Et je te pose une question par la suite.
Alors,
vous
auriez l'idée que je fais ça parce que le Québec est bientôt appelé à devenir un pays.
On a un doublon. Ouais. Bref, bizarre, mais c'est pas plus grave que ça. Je te le résume. Dans le fond, elle disait qu'elle a décidé de se lancer en politique avec le PQ parce qu'elle, c'est l'indépendance qui compte. Puis elle va convaincre les Québécois de voter oui.
Ah, y a de la job.
Il y a beaucoup de jobs, puis ça m'amène à penser, parce que là, le PQ, on ne se le cachera pas, là, on parlait de scores soviétiques tantôt pour la CAQ, là, ils ont gagné partiel avec des scores soviétiques en crime. Là. Même quand Duhaime s'est présenté dans Arthabasca, finalement, Alex Boissonneau a ramassé à peu près 47% des votes, là, c'est 46 points quelque chose. Alors, est-ce que ça peut venir en sorte de diminuer un peu le PQ dans Chicoutimi, c'est-à-dire que là, les gens vont lancer, parce que dans une partielle, on lance toujours un message, et là, les gens vont lancer le message au PQ. « Hey, slack donc un peu avec l'indépendance. »
Ça devrait pas trop, parce que tu as raison de dire que dans une partielle, les électeurs veulent lancer des messages, mais en même temps, c'est sans risque, parce qu'on n'est pas dans la générale. Donc,
en effet.
Les gens vont aller beaucoup plus vers « on veut voter contre le gouvernement, parce que là, on est dans un moment où on est à la fin, dans une fin de régime, etc. » Il faut dire aussi, Chicoutimi, c'était un terreau extrêmement fertile pour le PQ. Là. C'est dans les circonscriptions, évidemment, là, qui ont été remportées par le PQ.
Est-ce que ça peut changer, donc, comment dire, changer justement cette vision-là qui était plus péquiste?
Ça peut toujours changer. Il y a eu 2 mandats de caquistes de 2018 à maintenant, donc c'est sûr que ça peut changer, mais demeure que c'est un terreau qui est très fertile avec les sondages nationaux du PQ. En ce moment, Chicoutimi, ça fait partie des premiers comtés qu'on est capable d'aller récupérer comme formation politique. Mais c'est sûr que quand on regarde les sondages d'appui à la souveraineté, on ne peut pas s'empêcher de se dire, quand on est à 26 %, on a vu le dernier Angus Reid la semaine passée, à promettre un référendum dans le premier mandat. Mais historiquement, les Québécois ont souvent voté libéral au fédéral et PQ au provincial, ou alors voté massivement pour le Bloc au fédéral, puis voté pour des gouvernements libéraux à Québec. Donc, c'est comme si on est ambivalent un peu, puis qu'on on veut pas trop aller d'un bord ou de l'autre, finalement, pour garder une espèce d'équilibre, peut-être, entre les deux.
Hey, Pierre-Luc pose une super bonne question par texto. Il continue à nous texter au 418-971-101. Il dit, coudonc, il dit, ça serait le fun, par exemple, que le Parti conservateur du Québec, au général, dont Éric Duhaime, rentre à l'Assemblée pour que les partis de gauche arrêtent de faire semblant qu'ils sont de centre-droit. C'est vrai que c'est à la mode, hein, je suis de centre-droit.
Bien, écoute, ça me fait rire, gauche-droite, parce que ça dépend où tu mets le centre. Tu sais, moi, il y a des gens qui me traitent d'extrême droite, puis il y a des gens qui me traitent de woke dans le jeu.
C'est vrai.
Ça dépend c'est qui avec
lequel. J'ai le même problème.
Ben oui, on est pareil.
Ça, c'est parce qu'on est dans l'extrême centre.
Ça
le,
doit être ça.
Le centre de un.
Ça doit être ça, mais
on est rentré dans la gang à Denis Gravel.
Pour répondre à Pierre-Luc, je pense qu'à l'élection générale, c'est presque certain. À moins qu'Éric Duhaime, je ne sais pas ce qui pourrait se passer.
Non, mais c'est certain.
Mais c'est presque certain qu'il va rentrer au moins quelques députés en 2026 pour le Parti conservateur du Québec. Et quand on voit aussi la chute de QS un peu partout, ça change la dynamique dans les circonscriptions. Puis si la CAQ réussit à remonter un petit peu dans les sondages, il y a plusieurs circonscriptions dans lesquelles ça fait des luttes à 3 et même à 4.
Oui, et ça peut avantager le Parti conservateur du Québec.
Dépendamment dans quelle région, oui. Et ça peut aussi, surtout, créer beaucoup d'imprévisibilité. Donc, ça devient... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le site Québec 125 de projection, mais des fois, là, quand c'est très... dépendamment de comment les sondages nationaux sont, ça devient impossible de deviner dans une circonscription qui va l'emporter.
D'ailleurs, on vous l'annonce immédiatement, gang, le 2 octobre prochain. On sera en soirée électorale spéciale à Boulevard 102.1. Puis on vous prépare de quoi de le fun où vous allez pouvoir venir nous voir. Donc ça va être plaisant. Une belle idée de notre chère Antonine Iacarini. Hey, avant de parler rapidement de Donald Trump, je te dis, j'ai-tu rêvé où François Blanchette était à Chicoutimi en fin de semaine? L'harmonie est revenue.
Ben, écoute donc,
dans les rangs souverainistes, on gambade maintenant ensemble.
On gambade vers le pays, en fait.
Oui!
Oui, parce que François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas l'amour l'année passée. On se rappelle qu'après l'élection au niveau fédéral...
PSPP l'a clenché directement à l'Assemblée nationale.
Et pas parce que le journaliste lui a posé la question. Là. Lui, il s'est rendu au Hot Room pour planter François Blanchet puis dire qu'on collaborait beaucoup trop avec Mark Carney du côté du Bloc québécois. Mais qu'à cela ne tienne, François Blanchet a décidé d'aller soutenir la candidate péquiste dans Chicoutimi. Et là, je regardais ça puis je me dis, c'est bien gentil, mais vous avez une élection partielle. Vous autres aussi, qui s'en vient, cher Bloc québécois, et c'est dans Terrebonne. Et là, c'est mélangeant parce qu'on a parlé de Terrebonne tantôt, mais là, on parle bien de Terrebonne, la circonscription fédérale. La Cour a invalidé l'élection parce que c'était trop serré puis qu'il y avait des votes qui n'avaient pas été comptabilisés. On se rappellera de cette folle histoire d'élection très, très serrée. Et là, François Blanchet était dans Chicoutimi, mais moi, je regarde le profil Instagram de la députée sortante, Tatiana Auguste, la députée libérale qui vient de perdre sa circonscription. Elle est très active, elle fait du porte-à-porte, elle distribue des tracts. Et Mark Carney était là la semaine passée et François-Philippe Champagne était là la semaine passée.
Mark a même été dans un petit bar sportif de Terrebonne dimanche pour écouter Team Canada.
Ben oui, il y avait un petit chandail de hockey.
Fait
tout,
que là, tu sais, ça presse. Là.
Ça presse. Donc, mais ce qu'on me dit, c'est que la candidate, donc Nathalie Sinclair, qui avait contesté l'élection, n'a pas encore annoncé qu'elle
ça
se
représenterait plus.
Ben, je ne sais pas ce qu'elle attend, mais c'est parce que là, décidez-vous. Là, parce
ben non,
que...
c'est ça. Parce que là, à moins que ça soit une stratégie des souverainistes, on veut que Mark Carney ait la majorité. Comme ça, notre campagne référendaire va être encore plus frappante.
Oui, ça pourrait être ça, mais je te dirais en fait que dans les couloirs à Ottawa... Les partis d'opposition n'ont pas tant envie d'aller en élection.
Ben non.
Donc, sur le coup, on se disait, si Mark Carney réussit à aller chercher sa majorité à coup de partiel puis de défection, Pierre Poilievre serait dans la chenoute, le Bloc aussi. Pas tant que ça, finalement. Il semble que les gens se disent, bon, mais regarde, au pire, personne n'a envie d'aller en élection pour l'instant, surtout que Mark Carney est assez populaire et il risquerait de toute façon
Carney marche encore sur les eaux. Là,
exact.
On se le cachera pas. Parlant d'hommes qui marchaient sur les eaux, mais qui marchent moins sur les eaux, c'est Donald Trump. Et on l'écoute à la suite du jugement de la Cour suprême vendredi. Une honte, selon lui.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country.
Alors, c'est une honte, il est désappointé, ça va pas à comment le pays veut aller. C'est le grand discours de l'État d'Union demain
oui,
au Congrès. L'année passée, ça avait donné lieu à toutes sortes de spéculations. C'était le pire discours que j'avais entendu de ma vie. On avait ovationné Elon Musk.
Oui.
On disait à quel point l'Amérique allait redevenir grand sous le régime de Donald Trump.
Oui.
Mais dis-moi donc, chère Antonine, après un an, les gens aux États-Unis, là pas juste nous autres, les petites radios à Québec, les anti-Trump, les woke, là, pas juste nous autres, l'Américain moyen qui vit aux États-Unis puis qui mange la claque avec l'inflation, le peu de création d'emplois puis la pauvreté, il n'aime plus non plus Donald Trump.
Ben, c'est très polarisé, puis ça, je pense que c'est important de le dire. Hein. C'est presque plus réconciliable maintenant aux États-Unis, tellement que l'électorat est polarisé, mais il reste encore un petit milieu d'indépendants.
Mm-hmm.
Et c'est eux la clé quand vient le temps
fait
de gagner
ou de perdre.
Il n'y a
pas juste les woke de Québec puis de New York qui ont mis Mme Dany au pouvoir qui sont contre Trump.
Non, écoute ça. Okay, donc, un sondage de YouGov qui dit que 56 % des Américains désapprouvent fortement le président. 50 % le considèrent dangereux.
Aïe, aïe.
47 % le considèrent raciste.
Ouais, ça, il n'y a pas de surprise.
46 % le considèrent cruel.
Hey, c'est fort, ça.
Il y a 70 % des gens qui considèrent qu'il ment, soit souvent ou de temps en temps.
70
c'est ben, quand ça même veut peu. Dire que c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie de sa gang à lui qui sont comme, ouais, ouais, il ment.
Ben
fois,
oui,
là.
C'est
enfin,
ça.
C'est pas très bien. Il y a 49 % des gens qui considèrent qu'il est trop vieux pour occuper ce poste-là, lui qui s'approche du 80. Et il y a seulement 21 % des gens qui le trouvent honnête.
Oh, check, ça veut dire que dans sa gang, il y a juste 21 % du monde qui disent « Ah, ben oui, il est honnête. » Rappelez-vous qu'il y a eu tout près de 50 % des votes là, à la dernière élection.
Trop vieux, ça doit même le piquer un peu parce que c'était une des choses qu'il reprochait à Joe Biden.
Absolument.
Et pas à peu près, il l'a mis beaucoup en lumière. Antonine, je te pose une question qui est dure à répondre. Je pense pas qu'il y a de bonnes réponses. mais tu penses à quel moment où ça a un peu basculé? Tu penses que c'est quel fait... pas nécessairement dans la globalité où Donald Trump l'a échappé pour garder les siens.
Je pense pas qu'on puisse identifier un moment. C'est vraiment l'ensemble de là. Mais c'est sûr que vendredi, ce qui s'est passé, puis ça n'a pas rapport avec ce sondage-là,
ouais.
Mais vendredi, c'est un tipping point. C'est vraiment un point tournant. Puis malheureusement, je pense qu'il va réagir très négativement. Puis tu le disais tantôt en intro, Jean-François, qu'il a dit « OK, ben je vais monter les tarifs. » T'sais, au lieu de dire « OK, je vais peut-être m'ajuster puis essayer, laisser tomber mes tarifs. » Non, je vais monter les tarifs. Donc, plus il va se retrouver dans le coin, plus il va devenir cruel, agressif.
Maraudant,
les...
ouais.
Sur la question des tarifs, ce qui est fou, c'est que cette décision-là, puis honnêtement, il y a des bonnes nouvelles là-dedans pour tout le monde, parce que la démocratie américaine continue de fonctionner. On voit qu'il y a des limites au pouvoir présidentiel, et l'argument de la Cour, c'est de dire que tu ne peux pas taxer tes citoyens. Donc, peu importe l'article que tu vas invoquer pour mettre des tarifs, tu peux toujours pas taxer tes citoyens, mm-hmm. parce que c'est les tarifs, c'est les gens du pays qui imposent les tarifs, qui les payent. Ça, tout le monde le sait, même s'ils s'obstinent. Et en terminant, juste dire que c'est quand même ces sondages-là, ça laisse présager que les élections de mi-mandat, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, se passeront pas très bien pour M. Trump et pourraient avoir encore plus de limites s'il perdait le contrôle d'une ou des deux chambres. Généralement, quand les taux de satisfaction sont aussi bas, ça se répercute sur les élections de mi-mandat. C'est en novembre prochain. Il nous reste un petit bout de temps avant de savoir si ça sera le cas. Mais c'est des sondages qui sont quand même très difficiles pour M. Trump.
Très difficile. Et d'ici là, il y a des grandes compagnies qui vont poursuivre l'administration Trump, notamment Costco, qui a déjà annoncé qu'ils iraient de l'avant. Donc ça aussi, ça va être très intéressant.
Ça va ajouter de la pression sur lui parce que ça va ajouter une impression de chaos. Et c'est quelqu'un qui a fait campagne beaucoup en disant « Moi, je vais remettre de l'ordre dans le pays.
Mm-hmm.
Make America great again. »
Après la pause, on va justement parler avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal, sur cette décision de la Cour suprême concernant Donald Trump. Mais avant, on va parler avec notre spécialiste en conflit militaire, Éric Ouellette. Et Pascal, tu nous as aussi préparé quelque chose, des extraits avec un résident québécois qui est au Mexique présentement.
Oui, hier, je lui ai parlé donc en plein chaos. Et aujourd'hui, je lui ai reparlé. Tu vas voir, il y a une différence entre les deux journées, mais quand même, il y en a qui sont mal pris au Mexique en ce moment.
Cool. Alors, c'est ce qui suit à l'émission On en jase sur Boulevard 102. Hein? Émission On en jase sur Boulevard 102, 1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. C'est le retour de Pascal. Aujourd'hui, de son deux semaines de vacances. À la météo, c'est une autre belle journée. C'est moins 3. Passage nuageux soleil. Moins 6 demain, alternance de soleil et nuages. Et moins 7 pour mercredi avec de la neige intermittente. mais on parle pas de gros de grosses accumulations à l'heure actuelle, pas comme à New York où il tombe présentement de 60 à 70 cm de neige. La ville de New York est fermée, les amis, imaginez. C'est très rare qu'on voit la grosse pomme fermée. Éric Ouellet est en attente pour nous parler de ce conflit entre l'armée mexicaine et les cartels là-bas. Mais avant, Pascal, il y a un gros breaking news dans le dossier Jeffrey Epstein.
Oui, l'ex-ambassadeur britannique Peter Mandelson vient d'être arrêté. En fait, ça s'est fait ce matin. L'ancien ambassadeur du Royaume-Uni, Peter Mandelson, dans le cadre d'une enquête pour faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. Et ça découle de ses liens avec Jeffrey Epstein. Donc, la police a indiqué qu'il y avait des agents qui ont arrêté un homme de 72 ans qui est soupçonné de faute dans l'exercice de ses fonctions, comme je vous disais. Et on n'a pas nommé Mandelson conformément aux pratiques de la police britannique, mais le suspect dans cette affaire-là avait déjà été identifié. Donc, on le sait que c'est lui en ce moment. L'enquête, c'est sur des documents qui suggèrent qu'il aurait transmis des informations gouvernementales sensibles à Epstein il y a une quinzaine d'années. Donc, il fait l'objet d'aucune accusation d'inconduite sexuelle. Mais ça, c'est vraiment particulier. Il y aurait transmis des informations gouvernementales à Epstein.
Ouais, alors, le milieu politique britannique qui continue d'être éclaboussé par ce dossier de Jeffrey Epstein, parce que la semaine dernière, on le rappelle, c'est le prince Andrews qui a été arrêté justement par les services de police là-bas concernant justement des informations sensibles qu'il aurait transmis à l'ex-mania là, new-yorkais là, qui a été qui était accusé là, de trafic sexuel. Ça a été prouvé par plusieurs victimes et qui est décédé dans sa cellule avant son procès. On s'en va de ce pas rejoindre Éric Ouellet, qui est notre spécialiste en conflit militaire ici à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On va parler de ce qui se produit au Mexique. Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Ici aussi, la température s'améliore.
Ah, parfait, tant mieux. Éric, dis-moi donc, est-ce que cette opération-là de l'armée qui est allée éliminer le plus grand dirigeant de cartel au Mexique était planifiée depuis longtemps et est-ce que les Américains étaient dans le coup?
Pour ce qui est de la planification, on peut sûrement penser qu'il y a eu plusieurs mois de planification de fait, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le sujet. Cependant, il est très, très clair que les pressions de Donald Trump sur le Mexique d'agir contre les cartels ont eu une influence très forte, parce que M. Trump a dit que si le Mexique s'en occupait pas, ils allaient eux-mêmes, les Américains, envoyer soit des troupes ou plus probablement faire des frappes aériennes au Mexique. Donc, le gouvernement mexicain a pris les moyens pour éviter que les Américains s'impliquent directement.
C'est une question quand même épineuse, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'on connaît le Mexique comme étant un peu corrompu, un peu étant un mot bien simpliste dans tout ça, mais le fait que cette armée-là, que je vais décrire, l'armée d'un super influent dans le monde de la drogue, soit très organisée, ait énormément de ressources et décide de prendre d'assaut certaines rues pour défendre celui qui a été tué, ça complexifie les choses dans un pays comme celui-là, non?
Oui, non, c'est sûr que les dirigeants du cartel, enfin les successeurs là, de El Mencho ont décidé d'attaquer où ça faisait plus mal, c'est-à-dire en partie l'industrie touristique, mais aussi d'autres industries. C'est certain qu'ils mettent des pressions politiques à travers leurs actions sur le terrain. L'armée mexicaine, les forces fédérales mexicaines, de façon générale, sont moins corrompues que le reste de la police et de l'appareil sécuritaire. Donc, on peut espérer qu'il va y avoir quand même un degré de succès là, de la part des autorités mexicaines pour réduire le pouvoir des cartels, mais ils vont pas disparaître. Ça, je pense qu'il faut être, ça serait très naïf de penser ça.
On envoie 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays, du côté du Mexique. Combien de temps cette guerre-là peut durer? Et là, je pense à nos auditeurs qui, eux, se sont réservés pour la relâche scolaire, un voyage à Puerto Vallarta, puis qui disaient « Je vais-tu pouvoir y aller? »
C'est une bonne question. Ça pourrait durer un bout de temps. Je pense que le cartel va probablement, lorsqu'ils auront marqué assez de points politiques pour montrer qu'ils sont capables de faire des choses, vont probablement se retirer. et retourner à leurs activités plus régulières, là, dans criminelles. Mais ça, on en a encore au moins pour une semaine, je dirais, avant que le cartel se retire. Parce que la différence, c'est qu'ils n'ont pas des ressources illimitées, contrairement aux forces armées, où ils ont beaucoup de ressources. Là, ils ont beaucoup de personnel, ils ont beaucoup d'équipements. Donc, ça va durer un certain temps, mais je suis pas sûr que ça va durer jusqu'à la mi-mars.
Assurément qu'on ne sera pas capable de démanteler ce qui avait été construit. On voyait encore des vidéos en 2020-2021 de l'ampleur de cette force d'El Mancho. Mais réellement, le gouvernement mexicain va réussir à remettre la paix et avoir un contrôle face à ces voyous-là, criminels-là?
Ben, ils vont être capables de rétablir un nouvel équilibre, je dirais, parce que le problème, c'est que les cartels ont corrompu plein de politiciens, des juges, des gouverneurs des États, etc. Donc, c'est une première frappe, un premier coup dur contre les cartels, mais ils sont très loin d'être démantelés parce que la corruption, comme vous avez dit, est un petit peu au Mexique. Alors, c'est une tâche de longue haleine. On parle de probablement de décennies là, pour ramener le pays à un niveau de corruption beaucoup moindre. Là. Donc, c'est une première frappe, mais ça ne changera pas la donne de façon drastique.
En terminant, Éric, il y a eu 30 décès confirmés du côté des cartels mexicains, 25 du côté des forces militaires mexicaines. Est-ce que ce nombre-là va augmenter en grand nombre dans la prochaine semaine?
De mon estimé à moi, je dirais qu'on va être probablement dans les quelques centaines des deux côtés. Je pense pas que ça aille dans les milliers, ça serait très surprenant parce que il faut se rappeler quand même que les criminels du cartel sont pas des gens qui ont la discipline des forces armées, donc éventuellement ils vont disparaître et retourner dans leurs activités criminelles. Donc, ça va durer un certain temps, mais ils ne peuvent pas continuer pour très, très, très longtemps.
Est-ce que l'industrie touristique risque d'être fractionnée à un niveau où on va avoir aussi pour une dizaine d'années à reconstruire à la suite de tout ça?
Ça, c'est possible. Puis je pense que c'est ce que les cartels cherchent à faire, c'est-à-dire pas tellement de malmener les touristes en ce moment, mais de malmener l'industrie. Donc, si on se rappelle, il y a un certain nombre d'années, à Cancun, il y avait eu des problèmes un peu similaires. Puis l'industrie touristique ça leur a pris plusieurs années avant de s'en remettre. C'est possible qu'on ait un scénario similaire cette fois-ci.
Éric Ouellette est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Merci beaucoup, Éric, pour ta collaboration ce midi. Puis on te garde à l'œil parce que si jamais ça se met à brasser en Iran cette semaine, on va te reparler certainement.
D'accord, bien au plaisir.
Yes, au plaisir. Salut, Éric. C'était Éric Ouellette qui est avec nous, notre spécialiste en conflits militaires. Il y a aussi la Coupe du monde de football, c'est-à-dire de soccer, qui aura lieu Canada, États-Unis, Mexique dès cet été. Donc, c'est pour ça qu'on parle qu'il y a des négociations aussi entre les cartels et le gouvernement pour que tout ça se passe bien, parce que ça va être des millions, sinon des milliards de dollars en retombées économiques que le Mexique va bénéficier cet été.
Et on avait déjà fait en sorte de retarder, d'annuler, de déplacer des matchs qui étaient supposés avoir lieu dans les prochains jours.
Mm-hmm.
Au niveau du soccer, tu sais, qui est toujours d'actualité tout au
Exactement.
Long de l'année. Là.
Ouais. Pascal, tu as parlé avec un résident là-bas qui est au Mexique. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu lui as parlé hier alors que ça explosait puis tout était en fumée. Là. Puerto mm-hmm. Vallarta était un écran de fumée. Et tu y as reparlé ce matin.
Exact. C'est deux situations assez différentes, mais malgré tout, il y a une continuité. Hier, c'était le chaos. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Puis ce qui est intéressant dans le discours du Québécois que j'ai contacté, c'est que lui, il n'est pas dans un tout-inclus. Tu sais, pour certains, être dans un tout-inclus en ce moment, il y a un minimum de sécurité. Mm-hmm. Mais là, eux autres, ils ont loué un condo dans lequel ils s'approvisionnaient par eux-mêmes et vivaient le Mexique à leur manière, donc pas avec des géos sur le bord de la piscine. Ils me parlaient de cette situation-là qu'ils vivaient hier, jour de chaos.
Depuis ce matin, tout est fermé. Puis en plus, ben, nous autres, c'est pas un hôtel tout compris, fait que il n'y a pas de bouffe ici. Et puis, moi, je suis diabétique, fait que il faut que je mange. Puis là, ben, on a trouvé un resto qui est ouvert jusqu'à 6 heures. Fait que mon ami Robin, il est parti là. Puis là, il a ramené un peu de nourriture. C'est l'enfer. On a vu de la boucane. C'était spécial en maudit. On est un petit peu stressé, là. C'est juste que la bouffe, ben, on n'a pas. Là, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer.
Mais ils ont de la misère à s'alimenter, ils ont de la misère à trouver de l'eau, ils ont de la misère tout simplement à être dans un sentiment de sécurité. Ça, on était dans la journée de dimanche, donc d'hier. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais vous allez voir, il y a quand même des mesures de sécurité qui sont demandées.
C'est très tranquille. Il n'y a personne dans les rues. On n'a toujours pas mangé. Bon, un matin, j'ai réussi à avoir du café de l'hôtel, de notre condo, là, avec la fille de l'administration en bas. Parce qu'ils n'ont rien ici. Nous autres, on est en condo. Hein. Et puis, bon, on attend les événements. Là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. On est supposé de revenir samedi. Mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir partir samedi. Puis en espérant que j'ai mes deux amis avec moi là, qui sont partis là, à la recherche d'un dépanneur pour essayer de trouver quelque chose à manger. Là.
Ah oui, parce que tous les commerces sont fermés à l'heure actuelle. T'sais, la ville a été prise d'assaut là, par les cartels.
Quand on parle du chaos, ben depuis hier, c'était les motos qui se faisaient courir après avec leurs conducteurs pour les incendies. Mm-hmm. C'était on fait sauter des autobus. C'était on vient qu'à créer une panique sur les tarmacs d'aéroport. Les commerces, effectivement, étaient fermés parce qu'on ne savait pas si on allait être victime d'un attentat ou quoi que ce soit. Et les Mexicains sont rentrés chez eux. Là. Il n'y a pas de... On est là puis on ouvre le commerce pour les touristes.
Non,
pas du tout. On ne met pas notre vie en jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas de nourriture et qui arrivaient samedi comme ce Québécois-là, ben, ils se disaient, on va faire une épicerie puis on va être... Là, ils n'ont absolument rien, c'est particulier. Ils ont des nouvelles des autorités, mais très peu, même de la misère à entrer en contact avec les ambassades.
Là, j'ai bien de savoir qu'il y avait 2500 soldats qui arrivaient aujourd'hui ici. Quand? Je ne sais pas. On est confiants que ça se règle. Et puis, on n'est pas en danger. On est dans notre condo. On n'est même pas supposé de sortir dehors sur le balcon. C'est les avertissements qu'on a eus. À part de ça, là, je pense que vous en savez plus que nous autres, parce que nous autres ici, c'est la TV espagnole, on parle pas espagnol. Moi, je parle anglais, mais c'est tout.
C'est fou, ça, par contre, hein, pas capable d'avoir d'informations
ben oui.
au niveau de la sécurité. Ah, on sent bien, probablement parce qu'ils sont dans leur condo. Par contre, on leur dit, vous sortez pas sur les balcons. Et il y a plusieurs Québécois, quand tu vois dans l'actualité, le disaient. Donc, on est un peu confinés, on dirait un genre de COVID 2.0, mais au niveau d'attentats puis de chaos.
Vraiment. Hey, d'autant plus que c'est 26 000 Canadiens qui se retrouvent présentement au Mexique. Et la ministre, justement, Anita Hannan, des Relations internationales, a dit, suivez les instructions locales et de demeurer à l'intérieur, mais suivre les informations locales quand tu les as pas, c'est tough.
Ben oui, ou tu les comprends pas.
C'est ça.
Je vais terminer avec une clip sur l'alimentation parce que ben, pour ce Québécois-là, il y a du diabète. Et un fait intéressant, et je rappelle à tout le monde à quel point des fois on peut négliger ça. Par chance, il a pris de la médication pour une semaine de plus. Donc pour une semaine plus... celle qu'il avait pour sa semaine de voyage au cas où. Donc, il y a des médicaments pour deux semaines au final quand il était là pour une semaine. Ça peut aider dans sa situation. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on pense qu'on va être correct au Mexique. Mais il faut qu'il se débrouille. Là. Il n'y a personne qui les aide pour manger en ce moment.
Et on s'est dit, ben dimanche matin, on va aller chercher l'épicerie. Et on a eu le temps d'aller déjeuner dans un restaurant puis tout a fermé. Fait que c'est ça. On est pogné sans bois. L'eau, ben, on fait bouillir de l'eau au condo pour avoir au moins de l'eau pour boire.
Donc, c'est vraiment un bon conseil de voyage. C'est-à-dire, amenez un petit peu plus de médication, amenez-vous des denrées en un petit peu plus grand nombre parce que malheureusement, avec ce qui se passe en géopolitique à l'heure actuelle, on ne sait pas où ça va exploser.
Je ne sais pas si on va se mettre à apporter des cannes, des canages dans nos bagages, mais au niveau de la médication, c'est toujours important. Ils ne savent pas. Encore à ce moment-ci, Jeff, ils ne savent pas à quel moment ils vont revenir.
Non, exactement. Donc, on va suivre la situation de près. Je vous rappelle, sur le blvd.fm, notre entrevue qu'on a fait avec Éric Ouellet va se retrouver également sur notre site web. Et ce matin aussi, dans Marceau le matin, on avait parlé avec Steve, un ami d'Yannick, qui est aussi là-bas à Puerto Vallarta et qui était là, justement emprisonné dans son propre condo.
Le midi, on en jase à Boulevard Saint-Denis.
On en jase où je me plais à le répéter. On analyse l'actualité pour vous, on traite des sujets chauds, que ce soit au niveau local. D'ailleurs, on va avoir Mathias Turcotte tout à l'heure aux alentours de 13h30 qui va venir nous parler de cette fermeture de patinoires extérieures, non pas de l'optimisation pour en assurer la pérennité. Et on parle aussi de politique américaine. Et notre prochain intervenant est justement là pour en parler. C'est un chroniqueur régulier qu'on a chaque semaine à l'émission On en jase. Il s'agit de Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu, mon ami?
Salut JF, salut Pascal, ça va très bien.
Good. Gab, gros revers pour Donald Trump vendredi, la Cour suprême, où il y avait pourtant plus de juges qui avaient été nommés par Trump que les autres, a décidé de renverser sa décision sur les tarifs.
Pour dire qu'il y a du gros bon sens quand même dans la Cour suprême américaine. Non, non, plus sérieusement, là, ce qu'on a vu, tu as tout à fait raison de le dire, vendredi dernier, ce qu'on voit, c'est une Cour suprême qui dit que le président américain n'a pas le pouvoir dans le cadre de la loi sur l'urgence économique qui avait été utilisée pour mettre des tarifs de façon unilatérale sans aller vers le Congrès. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ben, c'est une bonne chose pour l'état du commerce international parce que on se rappellera tous de la journée du Liberation Day. Permettez-moi l'anglicisme, on est arrivé avec le tableau, là, les noms du Vietnam, de la France, même des îles à pingouins, puis on avait mis des tarifs pour tout le monde. C'est un petit peu lunaire, mais là, ce qu'on voit, c'est que ça s'est mis de côté rapidement. Il n'y a personne qui est surpris. On a un Donald Trump qui, sur son réseau social, Truth Social, qui a commencé à dire « je mets 10%, finalement, c'est 15%. » Mais en tant que Canadien, c'est quoi l'impact? Ben, l'impact est très minime, hein, parce que 90 à 95% de nos exportations vers les États-Unis sont exempts de ces tarifs douaniers. Alors, le gouvernement de Carney, de Mark Carney, devrait surtout, là, dans le cadre actuel, se concentrer pour renouveler l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, parce que c'est la pièce, là, c'est l'accord qui nous permet de ne pas être trop affecté par les tarifs douaniers aujourd'hui.
On se demande quand même qu'est-ce que ça va donner tout ça, parce que Donald Trump se fige et surtout se braque et encore là continue de frapper avec sa façon de voir les choses, l'envie de ne pas devoir être faible auprès des engagements qu'il a pris. Est-ce qu'il y a un moment où on peut arrêter tout ça? Parce qu'il rajoute des tarifs en ce moment. Est-ce qu'il, lui, se fie sur le fait que les déboires en justice seront tellement longs qu'il va pouvoir continuer de régner comme il le souhaite?
Pascal, c'est clair qu'on est dans un moment d'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes, puis c'est parce que les tarifs douaniers sont un outil économique qui s'inscrit dans sa vision économique, dans la vision économique de l'administration Trump. Alors, la Cour suprême a dit, tu peux pas utiliser ça, M. Donald Trump, dans le cadre de cette loi-là, mais il y a plusieurs autres lois. Évidemment, ça va demander peut-être l'accord du Congrès après certains moments, parce que le 15%, ça, c'est bon pour pendant 150 jours. Donc, il y a tous des petits outils techniques, mais concrètement, là, on n'en a pas fini des tarifs douaniers, on risque d'en revoir puis d'en revoir. Et donc, c'est ça l'important au Canada, c'est de se dire, ben on doit renégocier l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique parce que, je le rappelle, 3 $ sur 4 qui est exporté, c'est aux États-Unis, donc on a besoin de ces exemptions-là.
Pour rappel, on parle avec le chroniqueur Gabriel Giguère, qui est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. On parle de la décision de la Cour suprême vendredi dernier d'annuler les tarifs de Donald Trump. Gabriel, Donald Trump a dit vendredi, ça va être 10 %. Il s'est levé samedi matin. Finalement, ça va être 15 % les tarifs. Et là, il se base sur une loi qui lui permet de mettre ça pendant 150 jours. À quoi s'attendre du président Trump? Il est tellement imprévisible. Est-ce qu'il pourrait décider la semaine prochaine, c'est 25 %?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la loi qui a été mise de l'avant, c'est 15 % le maximum, ce qui est une bonne chose, on peut le dire comme ça, mais on a plusieurs autres lois, il peut y avoir plusieurs autres outils qui sont mobilisés au cours des prochaines semaines. Alors, encore une fois, l'incertitude, elle est là. Elle va rester pendant des années avec l'administration au pouvoir. Un des éléments qui est important de comprendre, puis il y a un excellent institut de recherche aux États-Unis, là, le Tax Foundation, qui fait plein d'analyses avec les mesures politiques de taxation, puis dit, ça coûte combien concrètement famille, ce qu'ils ont mis de l'avant il n'y a même pas deux semaines, c'est d'expliquer que l'impact des tarifs douaniers aux États-Unis, là, ça coûtait à peu près 1 000 $ US par famille en 2025. Ça, là, ça se fait sentir directement dans le portefeuille. Fait que c'est normal que l'accord, ou plutôt l'appui sur ce type de politique-là par les Américains, elle est en train de fondre comme neige au soleil parce que ça coûte plus cher, la vie coûte plus cher. Donc, il ne faut pas être surpris qu'au niveau des midterms cette année, on ait moins d'appui à cette politique économique-là parce que c'est les gens, c'est les Américains qui la payent.
Trump a-t-il assez de recul et ou à l'inverse a-t-il trop d'ego pour revenir justement sur ses décisions avec les midterms et la volée qu'il risque de manger qui s'en vient à grands pas?
Ah, c'est vraiment une excellente question parce que c'est vrai qu'en matière d'ego, on fait difficilement pire que le président américain. Donc, ça peut être assez complexe de voir, mais je pense aussi que au niveau de la communication politique, là, ce qu'on appelle, là, je mets des guillemets, mais les spin doctors, là, qui sont capables de faire dire n'importe quoi dans les narratifs gouvernementaux, l'administration américaine doit en avoir des excellents. Donc, si on arrive à un point où on commence à perdre, si on arrive à un point où on comprend que les Américains, c'est plus ça qu'ils veulent, puis on risque de se faire un petit peu mettre de côté aux prochaines élections, mais fort est à parier qu'on va avoir peut-être des spins, mais en même temps, le problème, c'est qu'on nous a tellement vendu que les tarifs douaniers étaient la clé de voûte là, pour une économie prospère et dynamique. J'avoue que je peine encore à voir où et quand le président américain va changer de vision économique, mais l'un des éléments centraux, hein, faut se rappeler, là, c'est quand même que Donald Trump a dit « Moi, je vais mettre des tarifs douaniers parce qu'on se fait avoir par le monde entier. Notre balance commerciale, on est trop déficitaire, on importe trop. » On a mis des tarifs douaniers plus que dans les dernières décennies. Puis quand on regarde la balance commerciale, c'est pire en 2025 qu'avant. Donc, l'impact économique sur le commerce n'est même pas là. Alors, quand on pense aux 130 milliards de dollars et plus qui sont récoltés en tarifs douaniers, qui sont payés par les familles américaines, on comprend une chose, c'est un flop, c'est pas une bonne politique économique. C'est clair, maintenant, il va falloir que l'ego soit mis de côté, ce qui pourrait ne pas être le cas, bien entendu, avec l'administration américaine et le président au pouvoir.
Il y a des questions importantes aussi quand on parle d'économie, s'il s'avère qu'on va pouvoir prendre des mesures contre Donald Trump, comme ce qu'on voit en ce moment au niveau des entreprises, en fait, qui ont été très souffrantes avec les tarifs, Costco, etc. Ça pourrait coûter cher aux États-Unis, très, très cher, même que les entreprises peut-être auront un remboursement vu tout ce qui se passe suite à la décision de la Cour suprême. Et c'est encore pas le consommateur, le citoyen qui recevra ce surplus-là. Donc, Donald Trump voulait sauver son peuple économiquement, mais il va le faire souffrir encore plus, non?
Pascal, c'est vraiment l'une des grandes questions là, qui est en suspens aujourd'hui. Je regarde ça assez souvent, puis on n'a toujours pas cette réponse-là. Est-ce qu'on va devoir redistribuer le 130 milliards de dollars qui a été perçu aux États-Unis? Parce qu'encore une fois, tu l'as bien dit, c'est des Costco de ce monde qui payent ce montant-là. Puis ensuite de ça, on vient leur filer aux consommateurs. Donc, ultimement, le consommateur paye une bonne partie de ça. En gros, il va falloir voir comment ça va évoluer au cours des prochains mois. Ça peut être très long, mais effectivement, là, c'est une réelle possibilité comme quoi le trésor américain allait être sauvé avec les tarifs douaniers. Je pense que c'est vraiment pas le cas et ça risque de ne pas l'être également.
Gabriel Gigard, merci beaucoup pour ton excellente analyse. Je retiens qu'à l'Institut économique de Montréal, on trouve que la politique tarifaire de Donald Trump est un flop. Alors moi qui n'ai pas économiste, ça va me permettre de le dire et d'avoir de la crédibilité.
Magnifique, je suis content d'entendre ça, JF.
Merci, Gab. On se reparle bientôt. Salut, Gabriel Giguère, excellent chroniqueur que vous entendez sur nos ondes de l'Institut économique de Montréal. Vous l'entendez sur nos ondes une fois par semaine. Aujourd'hui, on l'a devancé. D'habitude, on l'a le jeudi, mais là, on l'a devancé à lundi avec la guerre tarifaire qui se produit. Pascal, on va avoir un journaliste du Journal de Québec qui a fait un excellent dossier après la pause.
Absolument. C'est très intéressant de recevoir Jérémy Bernier du Journal de Québec. Il y a des choses qui se passent et qu'on ignore par fois. Entre autres, un dossier qui est apparu ce week-end dans le Journal de Québec sur l'explosion d'accusations pour leurs d'enfants. Donc, on parle de 15 prédateurs les plus redoutables, même des récidivistes là-dedans. Et ça s'attaque littéralement à vos enfants.
Oui, exactement. Donc, quelque chose qui est vraiment, vraiment pas plaisant à lire, mais qu'il faut parler. Alors, on parle avec le journaliste immédiatement, dans un instant, à Boulevard 102, à l'émission d'En Jase. Il est exactement 13h07 à l'émission d'En Jase avec Jeff Fortin, Pascal CV qui est de retour de son beau voyage d'Australie. 418-971-1021 pour nous joindre. Continuez à le faire, c'est super intéressant de vous lire. Et n'oubliez jamais de télécharger l'application si ce n'est déjà fait sur App Store et Google Play Store parce que vous pouvez nous écouter partout où vous allez, que ce soit au bureau, dans la voiture, plus loin que les ondes radio hertziennes de la ville de Québec. Vous allez pouvoir nous suivre. Parlant de Ville de Québec, il y a un événement superbe qui s'en vient durant la semaine de relâche. C'est un classique du 3 au 8 mars à Exposité. C'est l'International de l'Auto de Québec avec plus de 35 marques. Et BLVD vous invite à découvrir les nouveautés automobiles et une panoplie d'activités. Hey, Pascal CV, écoute ça. Voiture de collection d'une valeur de plus de 15 millions de dollars avec quatrième collection. Pas pire, ça, hein? Une dizaine de voitures JDM pour la première fois, voitures fabriquées au Japon spécifiquement pour le marché japonais à l'origine. zone lowrider plus zone antique plus zone Lamborghini. Hey, Lamborghini, ça me fait penser à Rocky IV lorsqu'il se dit « je vais aller battre Ivan Drago ». Zone Gilles Villeneuve et zone des étoiles pour entrer dans l'univers des films. Karting pour enfants, jeux gonflables et plus encore. Et en tant que partenaire, on a même un kit d'éclairage LED en hexagone pour votre garage. Gracieuseté Days Floor à vous offrir d'une valeur de 1 000 $. Et aujourd'hui, c'est fort simple. Pour courir la chance de gagner, vous devez aller inscrire 1923 au blvd.fm dans la section concours. Ce chiffre-là, pourquoi 1923, Pascal? Parce que ça représente l'année que le salon de l'auto a débuté. On va vous apprendre quelque chose de nouveau chaque jour sur l'International de l'Auto de Québec pour plus de chances de gagner. On dévoile l'heureux chanceux ou chanceuse ce vendredi et mercredi dans Marceau le matin aux alentours de 9h15. Charles Drouin, le directeur général du Salon de l'Auto, sera en onde avec nous. Donc, si vous voulez en savoir plus, syntonisez Marceau le matin. Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité? Juste avant de parler avec Jérémy Bernier de son excellent dossier sur ces leurres d'enfants qui sont en augmentation.
On parlera à Mathias un peu plus tard sur le sujet, mais la Ville de Québec a tranché. Alors, deux patinoires fermées qui sont situées à Sainte-Foy-Sillery. Ils vont fermer l'an prochain et ce sont celles du Parc de la Falaise et du Parc des Écarts. Les deux sont à Sainte-Foy, comme je vous disais, parce que les heures de surveillance dans les patinoires vont aussi être diminuées de 5 heures par semaine. On a annoncé ça aujourd'hui et on confirme donc une information qui avait été publiée un petit peu plus tôt dans le journal. Et il va nous expliquer tout ça, notre collègue Mathias, s'il était au point de presse. Suspension en raison de bagarres. On a tranché, il y a 4 clubs qui vont être barrés du prochain tournoi Pee Wee de Québec. C'est pas rien, c'est Patrick Dhomme qui en a parlé. Donc, on a trouvé le moyen d'être impliqué dans des foires, dans des matchs d'exhibition lors du tournoi international Pee Wee de Québec. Et là, on a dit, ben non, il y a tolérance zéro là-dedans. Et les clubs qui sont impliqués sont déjà barré de la 67e édition de l'événement. Donc, pour l'an prochain, il y aura des joueurs qui ne pourront pas venir participer au tournoi Pee Wee, qui est quand même quelque chose de super intéressant, mais surtout attendu par des jeunes. Mais on veut donner l'exemple. Et il y a 2 Canadiens qui ont été blessés du côté du Mexique dans le chaos qu'on a connu hier après qu'un chef de cartel ait été assassiné par l'armée mexicaine. On aura plus d'informations au courant des prochaines heures.
Excellent dossier ce week-end dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, du journaliste Jérémy Bernier concernant les pédophiles et les leurs d'enfants. On va le rejoindre immédiatement en ligne. Jérémy, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va bien, vous autres?
Oui, ça va super bien. Jérémy, dis-moi, en premier lieu, ça a dû être difficile à faire comme dossier en tant qu'être humain de voir toute cette folie autour des leurs d'enfants.
Oui, bien effectivement, là, quand tu lis tous les dossiers, tous les jugements rendus dans ces histoires-là, quand tu écoutes les audits des rencontres avec les juges et tout ça, tu te rends compte à quel point certains dossiers sont, comme tu l'as dit, assez graphiques, assez dégueulasses carrément. C'est pas facile, mais je pense que c'est une job qu'il faut qu'il soit faite, là, parce que décidément, comme on l'a vu dans le dossier, là, c'est un phénomène qui est grandissant malheureusement là, dans les dernières années.
Justement, puisque tu as observé qu'il y avait une certaine explosion, puis tu as décidé d'aller la confirmer, de l'affirmer maintenant dans un article, c'est-tu parce qu'avec tes années d'expérience, tu voyais des dossiers de plus en plus régulièrement sur ton bureau, Jérémy?
Mais en fait, je travaille dans les faits divers depuis quelques années déjà et bon, effectivement, on constate ces situations-là année après année. Par contre, on s'est posé la question, tu sais, durant la pandémie, les gens étaient plus souvent à la maison, tout comme que ce soit les enfants, les parents, les adultes, toute la population en général était à la maison plus souvent durant ces années-là et on s'est fait de la réflexion. T'sais, 1 plus 1 égale 2, s'il y a plus d'enfants à la maison, il y a plus de malheureusement de pédophiles aussi chez eux. Et on a voulu confirmer à savoir si, justement, cette situation-là s'avérait s'il y avait effectivement plus de leurres d'enfants, parce que le leurre, c'est, en fait, la première porte d'entrée vers un crime sexuel. Souvent, là, les individus qui vont commettre ce crime-là vont contacter les jeunes via les réseaux sociaux, les applications, les jeux vidéo aussi. Puis c'est à partir de là qu'ensuite vont pouvoir commettre leur crime. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que ça s'est découplé durant les années de la pandémie.
Donc, l'heure n'équivaut pas nécessairement à agression. L'heure, c'est au départ, là, dans les conversations, dans le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou encore un âge différent de celui que les criminels ont?
Exactement. En fait, là, c'est carrément pour une personne adulte d'entrer en contact avec un enfant, que ce soit en se faisant passer lui-même pour un enfant ou tout simplement en lui parlant dans l'intention de commettre un crime par la suite, là, qui est souvent effectivement là, sexuel.
Jérémy, tu fais aussi le portrait des 15 plus gros prédateurs sexuels dans ton dossier les plus redoutables au Québec. Est-ce que c'est tous des récidivistes?
Oui, en fait, exactement, c'est tous des récidivistes. Là, ce qu'on a fait, c'est que on a pris les 25 dernières années et avec mes collègues qui sont très calés en technologie, on a pu faire une espèce de filtrage là, des données qu'on avait pour trouver tous ceux qui étaient le plus récidiviste finalement là, dans les 25 dernières années. Donc, tous les portraits qu'on a dans notre dossier de ce week-end, c'est exactement ça. Ce sont tous des récidivistes. Et puis, certains d'entre eux sont toujours en prison, d'autres sont en liberté, parce que je rappelle que ça remonte à 25 ans, là, les premiers cas de mon dossier. Donc voilà, ce sont tous des récidivistes, parfois 2, 3, 4, 5 et même 6 dossiers similaires là, à la question.
Hey, c'est un signe que notre façon de faire en répression et en réinsertion sociale pour les crimes sexuels envers les enfants n'est pas la bonne façon de faire?
Question, je suis peut-être pas la bonne personne pour y répondre, mais je pense qu'effectivement, c'est une question à se poser. Quand on voit que la plupart des gens qui ont commis ces gestes dans le reportage que j'ai sorti, qui ont eu d'abord une peine plus minime, plus mince, disons, là, de quelques mois de prison, c'est souvent les mêmes qui vont récidiver. Alors, est-ce qu'il faut peut-être sévir plus sévèrement, justement, là, au départ? C'est peut-être une bonne question à poser, effectivement, parce qu'on constate que par la suite, quand ces gens-là ont des peines plus sévères, 10, 12, 14 ans de prison, tout dépendant de la sévérité de leur geste, ces gens-là ont tendance à se calmer par la suite.
Ouais, c'est sûr qu'il faudrait peut-être faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de recommencer hein, si on est trop clément à leur égard. Mais quand on parle des 15 prédateurs les plus redoutables, lequel ou lesquels t'ont marqué, toi, Jérémy, en tant qu'humain et pas nécessairement comme journaliste?
Moi, celui qui m'a marqué, je crois, l'un des plus, ce serait Daniel Lézévitz, là, qui est un cas qui remonte à il y a une vingtaine d'années, là, mais qui a décidément marqué l'une des victimes à qui on a parlé. Là. La victime qui n'a pas voulu diffuser son nom par crainte justement d'être retrouvé par cet individu-là qui l'a marqué 20 ans plus tard. Daniel Lézévitz, lui, a été condamné pour 25 victimes là, de l'heure, mais selon les données qu'avait la police à l'époque, aurait fait plus de 200 victimes là, autour des années... L'ami des années 2000, finalement. Là, à ce moment-là, lui utilisait le défunt application MSN là, qui servait justement à chatter entre jeunes, notamment. Et puis, il se faisait passer pour des amis d'amis de ces personnes-là, des personnes qu'il contactait, pour ensuite les forcer à se dénuder, faire des danses et tout ça devant leur caméra, leur webcam à l'époque. Des vidéos qu'il ensuite diffusait sur le web là, pour son plaisir personnel. Lui a été condamné là, en 2011 à plusieurs années, à 12 ans de prison là, pour avoir répondu coupable à 95 chefs d'accusation dans ce dossier-là.
95.
Ah, c'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. On parle avec Jérémy Bernier, journaliste au Journal de Québec, qui a fait un excellent dossier sur les prédateurs sexuels en ligne, une augmentation drastique des leurres d'enfants ici même au Québec. Jérémy, raconte-moi donc comment ça, c'est un regroupement de citoyens basé en France qui est capable de dénoncer les prédateurs du Québec, puis que c'est pas nous et nos corps policiers?
En fait, ce regroupement-là, disons, est un peu similaire à nos chasseurs de pédophiles au Québec, là, chasseurs de pédophiles qui d'ailleurs est illégal en soi, là. Du côté de la France, ça s'appelle la Team More, qui est un groupe en fait de personnes anonymes. Je dis la France parce que c'est là que ça s'est né, mais en fait, il y a plusieurs intervenants un peu partout dans la francophonie qui sont dans ce groupe-là. Puis ces personnes-là, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur propre visage qu'ils modifient pour ressembler à un enfant. Vont publier des photos, quoi que ce soit, sur le web sans jamais écrire directement à ces pédophiles-là. Ils vont simplement attendre d'avoir des contacts. Donc, finalement, ils ne vont jamais initier la rencontre. C'est ce qui fait qu'ils s'assurent d'être dans les limites, finalement, de la légalité.
Okay.
Puis, comme tu l'as mentionné, effectivement, là, ils ont traqué quelques personnes, quelques-uns de nos pédophiles ici au Québec, notamment Yvon Germain, un homme de la région de Montréal qui a été arrêté plusieurs fois par des agents doubles de la police, justement, et dont le témoignage de Tim Moore a permis, justement, d'arrêter et d'accuser là, par la suite.
Tu trouves pas ça bizarre, Jérémy, que ce soit majoritairement des citoyens qui réussissent à pointer du doigt, démontrer et ensuite passe tout ça aux policiers?
Excuse-moi, j'ai pas compris le début de ta question.
Tu trouves pas ça étrange que ce soit majoritairement des citoyens qui réussissent à démontrer qu'une personne a des visées criminelles comme celle-là?
Ben, en fait, c'est une bonne question, mais évidemment, la police, elle, se dédonne de tout ça en disant qu'elle a déjà, des enquêtes en fond et tout ça. Puis elle demande justement aux jeunes de ne pas s'impliquer parce que ces personnes-là, donc les chasseurs de pédophiles, pourraient s'immiscer dans leur enquête, pourraient causer des problèmes, pourraient eux-mêmes faire face à des accusations. Et puis, à savoir s'ils sont, si c'est bizarre que ce soit eux qui les aident à trouver des individus, je ne pourrais pas répondre à ces questions-là.
En tant que journaliste, tu t'abstiens.
Mais voilà.
Jérémy Vernier, je termine cet bel entretien avec toi. Et puis, j'invite tous les gens à aller lire le dossier. Là, ça se retrouve là, sur le site web du Journal de Québec avec le témoignage de Mélanie qui a été traquée pendant 2 ans à l'âge de 14 ans. Ce que je comprends, c'est que c'est une femme qui est rendue dans la trentaine. Et explique-moi comment elle vit encore des séquelles aujourd'hui de ceci.
Ah oui, en fait, elle était très difficile à trouver. Là. Comme je le mentionne dans mon reportage, c'est une dame qui... Refuse d'avoir son vrai nom sur les réseaux sociaux, refuse de faire des appels Zoom, comme on appelle, durant la pandémie, parce que cette personne-là a été traquée pendant 2 ans par l'homme dont je parlais tout à l'heure, le Daniel Lezébit. Cet homme-là a d'abord entré en contact avec cette dame-là par le biais d'MSN, ensuite a gardé avec lui des images qu'elle lui avait tournées, et puis a réussi à plusieurs reprises, parce que c'est un art de l'informatique, à la retrouver sous différents profils et tout ça. Donc, cette dame-là, malheureusement marquée par cette situation-là, a décidé d'avoir un seul réseau social et sous un faux nom, sous de fausses photos pour justement se préserver de tout ça. Puis, depuis la libération conditionnelle d'Elisabeth en 2015, me raconte que à chaque mois, elle fait le tour d'Internet en vérifiant si cet homme-là est à l'extérieur, dans sa région ou quoi que ce soit, s'il a fait d'autres choses, parce qu'elle était vraiment marquée par ce qu'elle a vécu, finalement. Là. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai réussi à la trouver, elle était très, très méfiante à mon égard, parce que je l'avais retrouvée malgré tout, malgré le fait qu'elle s'était cachée, elle avait tout fait pour être camouflée sur les réseaux sociaux.
Ah, je la comprends tellement d'avoir été méfiante. Jérémy Bernier, merci pour cet excellent entretien. Tout ton dossier se retrouve sur le site web du Journal de Québec, Journal de Montréal. Félicitations pour la rigueur que tu as mis dans ce dossier-là et en espérant que ça fasse bouger les choses au niveau des peines plus sévères pour les prédateurs sexuels.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Merci, Jérémy. Jérémy Bernier, journaliste, Journal de Québec, Journal de Montréal. Quand on regarde ça, Pascal, les 15 plus grands prédateurs, c'est tous des récidivistes. Il faut faire quelque chose. On se doit de protéger nos enfants.
C'est dur de ne pas faire cette corrélation-là de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est assez sévère versus des récidivistes des gens qui pourraient être récidivistes et qui ne le sont pas parce que la peine a été plus sévère. Jérémy Bernier l'a dit, dans ses constats de journaliste, il le voit, quand on a une peine plus sévère, il y a moins de récidive de la part de l'individu. Peut-être parce qu'on se dit, Colin, on paye cher, c'est un crime. Pour d'autres, c'est pas grand-chose, donc je peux recommencer. Puis que ma déviance, c'est peut-être pas à prendre aussi au sérieux que je l'aurais cru, tu sais.
Ah, exactement. C'est une hausse phénoménale là, des leurres pour enfants au Québec. On est passé d'à peu près là, 200 dossiers ouverts avant la pandémie à plus de 400. Donc, on a doublé le nombre. C'est épouvantable.
Ça doit être la chose la plus stressante pour un parent. Je m'excuse, mais tu veux pas empêcher ton enfant d'être sur les réseaux sociaux.
C'est
puis en
clair.
Même temps, t'as pas le contrôle sur tout. Tu vois pas tout. Ado étant ado, ça te cache des affaires.
Ben oui.
Puis là, à un moment donné, tu te dis, si, mettons, t'as un parent qui malheureusement est en train de vivre les conséquences du fait que son enfant a été approché par un pédophile et qui s'est peut-être passé l'irréparable, mais tu dois dire, Colin, j'aurais-tu dû faire plus ou à ce moment-là, je suis trop dans ses affaires? Elle est où la limite?
Il faut vraiment sensibiliser nos enfants, puis faut vraiment surveiller à qui ils
parlent. Faut en parler, selon toi.
Oh,
c'est
oui.
Ça que j'entends.
Ah, faut en parler.
Aborder les choses telles qu'elles sont.
C'est clair qu'il faut aborder les choses telles qu'elles sont. T'as des articles comme ça, là, prenez-les. Puis sensibiliser vos enfants, surtout vos jeunes filles là, entre 12 et 15 ans là, qui commencent à découvrir les médias sociaux avec les bons et les moins bons côtés. Là.
Mais c'est quoi vos outils? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un livre qui existait, Jeff, ça s'appelait « Pourquoi faut-il parfois dire non? » Puis il y avait quelques tomes, là. Puis moi, ma mère nous a traumatisé avec ça. Puis à l'intérieur de ces livres-là, qui étaient consacrés aux enfants, là, d'âge préscolaire, si on veut, il y avait des situations. Je me rappelle, il y avait une situation où c'était le fameux bonhomme dans son auto qui parlait aux enfants, puis il disait « Viens donc dans ma voiture. » Ou le fameux concierge un peu étrange. Puis ça permettait d'aborder ces situations-là. C'est un peu traumatisant, quand je vous disais, de lire ces choses-là. Je m'en souviens encore. Mais ça m'a éclairé, ça m'a allumé sur les risques et sur comment je dois répondre si ce genre de situation.
Ben moi, j'ai toujours utilisé les outils d'actualité. Il y a tellement de cas, malheureusement, judiciaires, justement, de leurres d'enfants, puis malheureusement, d'agressions sexuelles qui ont commencé par des contacts sur les médias sociaux. J'en ai parlé ouvertement avec mes enfants. C'est tout simplement ça que j'ai fait.
Comment vous sensibilisez vos enfants? 88-971-1021. À gang, peut-être on peut s'aider.
Oui, exactement, parce qu'il y a Paulo qui nous écrit « Je vous écoute et en tant que parent, mon avis d'essayer de parrainer nos enfants au mieux, leur expliquant qu'est-ce qui peut arriver sur un réseau social. » C'est exactement ce que j'ai tenté de faire, Paulo, puis jusqu'à présent, ça a bien fonctionné, mais j'ai des garçons. Les garçons sont moins à risque que les jeunes filles.
Je suis pas sûr, il n'y a pas de doute là-dessus.
Oh oui, 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 parce qu'il y a beaucoup plus de cas rapportés chez des jeunes femmes que chez des jeunes hommes, même si les jeunes hommes peuvent aussi être victimes.
J'ai pas les statistiques devant moi, mais j'ai l'impression que...
Faudrait creuser ça.
Je suis pas certaine, moi.
Ouais, on va creuser ça.
C'est peut-être plus gênant pour un garçon.
Ouais, ouais. Mais c'est une bonne
dans
idée.
Dans certaines circonstances. Tu sais, mais juste avec Roger Ferland, qu'on a souvent en onde ex-enquêteur, quand il parlait d'Opération Scorpion ici à Québec, il disait, ben on s'est beaucoup attardé parce que les jeunes filles, à un moment donné, en parlaient, tout ça. C'était peut-être moins gênant de jeunes filles à hommes. On s'entend. Hyper gênant, hyper stressant, etc. Ouais. Mais il y a eu aussi beaucoup de problématiques envers des petits garçons dans Saint-Roch et tout ça pendant de nombreuses années. Des petits garçons défavorisés, autres, qui ont accepté ou qui se sont carrément aussi... tu sais, des viols, on s'entend dans tous les cas, mais retrouvés dans des situations contre leur gré, tout ça. Et ils n'en ont pas parlé pendant de nombreuses années. Ouais. Ça m'a marqué.
En effet, on va s'y attarder. C'est une bonne, c'est une bonne chose. Après la pause, avez-vous eu le cœur brisé comme moi hier matin quand Jack Hughes l'a mis dedans en prolongation? J'étais dans une micro-brasserie avec mes chums. On dirait
micro-brasserie à 9 h le matin. Ouais, ça, ils ont fait de l'argent.
C'est ça. On dirait qu'on a arrêté de respirer pendant au moins 5 minutes. Eh bien, on parle de ceci avec notre excellent chroniqueur sportif Alex Laramé. Mathias Turcotte va venir aussi se joindre à la discussion. Puis tant qu'à voir Mathias... Il va nous présenter des extraits de la conférence de presse où on a optimisé l'utilisation des patinoires extérieures pour en assurer la pérennité. Autrement dit, c'est des belles paroles pour dire « on ferme des patinoires extérieures ». C'est dans un instant, on en jase. Que oui, on jase et on jase sur toutes vos plateformes, c'est-à-dire la radio hertzienne, l'application Boulevard 101 que vous pouvez downloader sur App Store et Google Play Store, c'est-à-dire télécharger, devrais-je dire, la web radio sur le blvd.fm, sur twitch.tv/blvd/fm. Puis en plus, vous avez juste à dire à votre Alexa ou à votre haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Et ça apparaît directement chez vous. Martin qui nous dit pour les réseaux sociaux versus nos ados, nous, c'est d'en parler, de relier leur adresse Gmail à la mienne. Question, que je vois des comptes se créer, les notifications reçues. C'est super intéressant ça, Martin. Merci pour le truc.
Et est-ce qu'il y a des fois un malaise, sens-tu intrusif de faire ça, quand tu vois tout ce qui entre, mettons, à un certain âge avec tes enfants?
Bonne question.
As-tu l'impression que ces enfants ont créé d'autres comptes avec d'autres adresses aussi?
Si tu veux répondre à ça, Martin, ça va être très intéressant. On va te lire au 418-971-101. D'ailleurs, on prend la peine de lire tous les textos. Et aussi, bien, on les exprime régulièrement en ondes. Le podcast Sors série, c'est l'espace où plusieurs animateurs de Boulevard 101 prennent le micro pour mener des entrevues longues et approfondies sur une variété de sujets, des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir à la radio, mais qui méritent d'être entendues. Et ce soir, 19h, ne manquez pas la diffusion du dernier épisode. C'est les 50 ans de l'album Wish You Were Here de Pink Floyd. C'est un podcast qui a été enregistré par Denis Gravel. Il y a des pièces mythiques sur cet album de Pink Floyd. Donc, amateurs de musique, ne manquez pas ce podcast à 19h. Ce soir, je rappelle que les podcasts hors série sont présentés par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes. Ah, allô, Chaloux, la fin de semaine. Que c'est plaisant. 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite. 3 succursales, Beauport, Saint-Émile, puis à Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. Santé, guys! Et profitez du podcast hors série ce soir. On va de ce pas rejoindre notre chroniqueur sportif. Il est également journaliste au 99.5 Montréal. Il a fait une job incroyable durant les Jeux olympiques pour nous. Alex Laramé, comment vas-tu, mon ami?
Ah, ça va bien, mes journées maintenant sont libres. J'ai l'impression d'être en vacances maintenant qu'il n'y a plus de Jeux olympiques.
Mathias Turcotte qui joint également à la conversation parce que Matt est un grand amateur de hockey. Puis on a trippé olympique les deux dernières semaines en ondes. Re-bienvenue, Mathias, à l'émission
d'Angers. Yes, salut tout le monde.
Bon, les gars, mon cœur est brisé. Mon cœur a fendu en mille morceaux. J'ai cru à la victoire durant trois périodes parce que, oh, colline que le Canada a bien joué. Mais Connor Hellebuyck a décidé de se lever sûrement pour la première fois de sa carrière dans un moment important.
Ah ouais, non. Moi, ce que je retiens de ce match-là, honnêtement, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Le Canada a dominé de A à Z. Ça a été une belle performance de Matt Boldy pour marquer le premier but. Ensuite, le Canada a dominé là, le jeu. Les Américains, même lors du 4 minutes qu'on a décerné à Sam Bennett, qui a arraché les dents de Jack Hughes, même les États-Unis n'ont même pas été capables de faire des bonnes séquences à l'attaque à ce moment-là. Et tu l'as dit, c'est Connor Hellebuyck vraiment qui a gagné cette médaille d'or-là. Honnêtement, si j'étais l'équipe américaine, je donnerais toutes les médailles à Connor Hellebuyck, toutes dans son salon, là, tout affiché, parce que c'est grâce à lui que les États-Unis ont pu se garder dans ce match-là. Là, parce que sinon, le Canada a dominé.
Puis c'est dur de nier ça. Là. Ce qu'Alex dit, c'est vrai. La meilleure équipe sur la patinoire, c'était le Canada. Par contre, le gardien fait partie de l'équipe, puis c'est là que les États-Unis ont gagné. Ce que je veux parler, c'est que on parle beaucoup de Connor Hellebuyck dans ce match-up, puis c'est compréhensible, il a fait une performance exceptionnelle. Mais Jordan Binnington avait beaucoup de doutes depuis le début du tournoi. Avant le tournoi, c'est-tu lui qu'on envoie devant le filet? Puis en finale, pour de vrai, il a sorti une grosse performance. Oui, on a été battu par un gardien américain qui a été époustouflant, mais notre gardien aussi, faut lui donner. Il a joué un gros match. Les gars se sont présentés aussi. Ce qui m'a fait mal sur le dernier but, puis ça, faut qu'on en parle, beaucoup de critiques envers Connor McDavid, puis McDavid a connu un tournoi exceptionnel.
Mm-hmm.
Faut lui donner. Mais sur le dernier but, un back-check, lacune défensive, va pas couvrir le bon gars, se fait endormir par rondelle. Ça, on apprend ça aux joueurs à partir d'Atom, à partir de Pee-wee. Si tu reviens, ne te concentre pas sur la rondelle, va voir prendre les joueurs libres. On s'est fait avoir sur un jeu comme ça que McDavid revenait, un joueur libre dans le slot. On s'en va, on est endormi par la rondelle puis on laisse tout seul. Cal Makar qui revenait pas aussi en backcheck à la fin. Pour moi, cette séquence-là, ça fait mal à regarder. Puis ça reste que nos gros joueurs ont joué un bon tournoi. Mais cette séquence-là en particulier, voir McDavid, Makar revenir de la sorte.
Moi, je suis beaucoup moins critique que toi parce que sans Connor McDavid, Cal Makar, Nathan MacKinnon ici, on touche même pas à la finale. Donc oui, ça peut être une mauvaise séquence en prolongation, mais moi, je suis bien plus fâché après le maudit 3 contre 3 que j'haïs. Puis ça, je l'ai dit depuis le temps des temps, je l'ai même dit avant la finale, je l'ai dit au début du tournoi olympique. Le hockey, ça se joue à 5 contre 5 et dans des moments comme ça, la prolongation doit être à 5 contre 5 comme on avait vu à la Coupe des Quatre Nations.
Ah ouais, non, totalement. T'sais, un bon exemple de ça, c'est aux Jeux olympiques d'été à Paris, on avait le basketball puis on avait le basketball à 3 contre 3 qui étaient deux sports complètement différents. C'est la même chose au hockey. C'est la même chose au hockey. Le 3 contre 3, John Cooper l'a dit après le match, c'est pas le même hockey. Puis nous, on est quand même choyés. On suit le Canadien. Et le Canadien est très bon à 3 contre 3. On conserve la possession de rondelles. Puis on a vu que le Canada a fait tout ce que le Canadien ne fait pas. On est allé directement vers le filet, faire des lancers, Connor McDavid, des montées à l'emporte-pièce pour finalement redonner la rondelle à l'équipe adverse. Ça a été une mauvaise gestion à 3 contre 3, mais au final, l'équipe n'a pas été bâtie pour jouer à 3 contre 3. C'est une équipe de 5 contre 5, c'est là qu'on a dominé. Fait que moi aussi, je trouve ça juste dommage que la prolongation joue à 3 contre 3. Ceci dit, c'était les règlements, tout le monde savait dans quoi on s'embarquait. On savait que c'était l'égalité, donc les États-Unis repartent avec la médaille d'or, mais ça laisse quand même un petit goût amer en bouche, là, à mon avis.
Puis on en a profité aussi de cette règle-là du 3 contre 3, parce qu'en quart de finale, en demi-finale, on était de loin l'équipe avec les meilleurs talents. Dès qu'on se retrouvait en 3 contre 3 contre la Tchéquie ou encore contre la Finlande, c'était une victoire presque facile pour nous par la suite. Fait qu'on en a profité de cette règle-là aussi. Par contre, puis je comprends pourquoi elle est là, parce que les joueurs jouent tellement beaucoup de matchs rapprochés qu'on pourrait pas avoir des prolongations à 5 contre 5 tout au long du tournoi. Ce serait trop pour les gars si tu joues plusieurs prolongations de suite. Par contre, en finale, il n'y a pas de match après.
Exactement.
Fait que ce qui pourrait être intéressant pour les tournois futurs, c'est de dire on fait du 3 contre 3 tout le tournoi, sauf en finale. C'est des prolongations 5 contre 5, puis c'est jusqu'à temps que quelqu'un score, parce qu'il n'y a pas de match ensuite. Fait que même si les joueurs sont épuisés après le match, ben ils ne jouent pas le lendemain de toute façon.
Excellent point, je suis très d'accord, puis imagine comment les bars et les micro-brasseries auraient fait de l'argent si le match serait en sixième période de prolongation.
Imagine-toi comment que certaines personnes seraient maganées aujourd'hui.
Peut-être que je ne serais pas en onde aujourd'hui.
Je pense juste à l'économie, vraiment.
Et voilà! Alex Laramé, en terminant, un petit mot sur cette récolte de 20 médailles qui est la plus faible quand même depuis Salt Lake City en 2002. Donc, je vais refaire mon plaidoyer de l'an prochain, de la semaine dernière. Je veux dire, ça prend les Jeux olympiques à Québec bientôt parce que c'est quand on a les Jeux olympiques au Canada qu'on performe le mieux et qu'on met de l'argent pour nos athlètes.
Ah ouais, non, ben en fait, moi je retiens beaucoup de choses de ces Jeux olympiques-là. Tu l'as dit, ça, au final, ça a été une performance un peu décevante. Mais 12, je pense qu'on était à 21 médailles au total. 12 des 21 médailles ont été remportées par des athlètes québécois. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir de nos athlètes d'ici qui ont super bien performé. Mais ce qui va être à surveiller, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes dans la trentaine qui ont gagné. Valérie Maltais, 3 médailles, c'est ses derniers Jeux. On a eu Laurent Dubreuil aussi, 33 ans, probablement ses derniers Jeux. Donc, ça va prendre une relève, justement, à ces athlètes-là, parce que sinon, le futur, dans les prochains Jeux olympiques, ce sera pas mieux pour le Canada. On n'améliorera pas notre récolte. Ceci dit, on a des bons espoirs quand même jeunes, mais ça va être à surveiller dans 4 ans pour développer une relève, justement, du côté olympique.
Alex Laramé, merci pour tes excellentes chroniques durant les Jeux olympiques. On reprend le calendrier normal, c'est-à-dire lundi et vendredi. Et vendredi, on va se parler du premier match de retour du Canadien de Montréal contre les Islanders de New York.
Avec plaisir.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramé, excellent journaliste au 99.5 Montréal. Vous l'entendez aussi faire des chroniques sportives sur les ondes de Boulevard 102.1 lors de l'émission du retour.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
À Boulevard 102, on tient notre sport, on tient nos activités physiques et on tient nos patinoires extérieures. Et là, Mathias Turcotte, t'es allé à la conférence de presse d'Éric Courtemanche-Barry, qui est autrement dit un conseiller municipal dans l'équipe de Bruno Marchand, parce que quand il y a des mauvaises nouvelles, c'est jamais Bruno Marchand qui se présente au micro.
L'augmentation des loisirs aussi, ça n'avait pas été Bruno Marchand, il faut dire. Là, l'augmentation
non,
pour les
quand il y a des mauvaises nouvelles, Bruno n'est pas là, il est juste là pour les bonnes. Il faut annoncer aux commerçants qu'il y a des travaux de tramway, on envoie les gens
tu
la ville de Québec
calculé,
le faire.
Ça,
ben oui, c'est calculé. La RTC, les billets du RTC, c'est remise épouvantable au centre de foire d'exposité. C'est les gens de la ville qui sont allés.
Fait qu'il envoie au BAT comme François oui. Legault le faisait avec certains ministres.
C'est ça.
C'est ces gens élu.
Mais quand c'est le temps d'inaugurer des belles choses, ben là, Bruno, il y va à l'avant-plan, puis il dit « Lilo Dorchester, c'est moi, ça! » Mais hâte de voir dans une couple de mois quand les commerces seront fermés sur la rue Saint-Joseph s'il va sortir pour dire que ça va bien à Saint-Roch.
Puis là, aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est la fermeture de 2 patinoires en particulier. On parlait de 4 à 5 patinoires qui allaient fermer du côté de la ville de Québec parce que la commande qu'on a donnée aux loisirs, c'était d'économiser 150 000 $ pour les patinoires. Fait qu'un calcul simple se faisait, c'est 30 000 $ par patinoire, on va en fermer 5 pour arriver à 150 000. Finalement, c'est 2 qui ferment, celle située sur le parc des Écarts et celle située parc de la Falaise, chacune située respectivement dans Cap-Rouge et dans Sillery. Ce qu'on dit, pourquoi on en ferme juste 2, c'est parce qu'on ne fait pas juste fermer des patinoires. On va aller couper aussi dans les heures d'ouverture, les heures de surveillance. Donc, au lieu d'être de 16h30 à 22h, comme que c'est présentement du côté de la ville de Québec, du lundi au jeudi, ça va être de 17h à 21h30. Donc, on vient couper une heure par jour. Mm-hmm. Puis grâce à ça, avec la fermeture des 2 patinoires, plus les heures de surveillance en moins, on arrive au fameux 150 000 qu'on devait couper. La question qui s'est faite poser à M. Éric Courtemanche-Barry, qui est le responsable des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour la ville de Québec, c'est pourquoi avoir décidé de fermer seulement 2 patinoires au lieu de 5 et ne pas avoir prévu ce scénario à l'avance? Voici sa réponse.
Quand on a vu la mobilisation citoyenne, on a pris conscience, puis on avait déjà une partie de conscience, mais on a pris encore plus conscience que les patinoires ont une utilité pour les secteurs, aussi pour les écoles. Alors, on a décidé de regarder sur un autre angle, voir tourner les pierres différemment. Et là, on est venu à dire, bien, nos surveillances à 16h30, qui commençaient à 16h30 avant, c'est-tu optimal? C'est-tu nécessaire?
Mais je sais que je vais peut-être avoir toutes les tomates de la serre dans le front, là. Sauf que si on a évalué, par exemple, que ça nous coûtait extrêmement cher, puis on s'est dit, hey, selon l'achalandage, selon les heures d'ouverture, ceux qui se présentent sur les glaces, on est capable d'aller couper ici et là, même si c'est plate, même si on en enlève dans certains quartiers, même s'il n'y en aura pas une peut-être à ton coin de rue de maison, mais qu'on va aller rechercher beaucoup d'argent, parce que c'est quand même de l'argent municipal qui s'en va dans l'entretien, qui s'en va dans les salaires et tout ça. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle où on doit déchirer notre chemise?
Bien, ça dépend. Encore une fois, les utilisateurs utilisateurs de ces patinoires-là.
C'est sûr qu'ils se sentent concernés.
C'est sûr, c'est un peu décevant. Mais comme on vous expliquait, c'était pour le parc des Accords, c'est 649 visites cette année. Pour le parc de la Falaise, c'est 758 visites.
Comparativement à combien sur les patinoires forts à Chalandier?
Par exemple, pour le parc des Accords, on parle 63% sous la moyenne, qui est habituellement à 2500 autour là, pour le nombre de visites. Puis le parc de la Falaise, on est 56% sous la moyenne. Donc, c'est quand même des patinoires peu utilisées.
Plus utilisées que les pistes cyclables déneigées à coups de millions de dollars.
On pourra toujours faire des comparatifs.
Non, mais c'est parce qu'on écoute la population. On peut écouter la population, vierge. On déneige des pistes cyclables, puis on ferme des patinoires.
Tu me parles sur ce sujet-là. Je les ai ressortis des chiffres, justement, puis j'ai pris l'hiver, là, parce qu'on parle d'hiver dans le cas des patinoires. J'ai pris pour l'hiver au complet des pistes cyclables. Les six secteurs cyclables où on calcule les passages en vélo du côté de la ville de Québec, les moins utilisés pour l'hiver au complet jusqu'à maintenant, c'est entre 70 et 657 passages. Donc, pour ces six secteurs-là, il y a moins de passages qu'il y a de visites à ces patinoires-là. Fait qu'il y a quand même une comparaison qu'on peut aller faire.
On va terminer avec est-ce qu'on nous promet qu'on ne fermera pas des patinoires dans les années à venir?
On ne promet pas, mais pour l'instant, on dit que c'est pas dans les plans.
Est-ce que l'an prochain, on fermera deux patinoires à une place, mais on en ouvrira deux autres d'ailleurs parce qu'il y a un développement qui se fait? Est-ce que dans trois ans, on en aura d'autres besoins dans le secteur? Tout peut se faire. Je vous dirai pas aujourd'hui s'il y a fermeture ou pas. Présentement, il n'y en a pas d'envisager des fermetures pour l'an suivant.
On se tape des mains qu'on est la ville la plus active, mais on ferme nos patinoires, etc. Ça va complètement à l'encontre de ce que Bruno Marchand promet.
Mais il faut dire au moins, les mobilisations citoyennes ont payé, parce qu'au lieu d'en fermer 4, 5, on s'en va en fermer 2. Oui, on joue à travers l'heure d'ouverture, mais on s'entend, si tu veux aller à la patinoire, c'est pas le fait que ce soit ouvert à 16h30 jusqu'à 22h qui va changer de quoi vraiment, là. En tout cas, j'ose croire que t'es capable d'y aller, dans la majorité des cas, entre 17h et 21h30.
Ah, moi, vous me dépomperez pas. Je suis contre cette décision-là de l'administration Marchand. Bon, pour se dépomper, Pascal, après la pause, on va aller parler des élections partielles à Chicoutimi. Avec Lani Dufour, qui est directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communications et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On les prend le pouls sur le terrain. On va terminer avec un petit 5-6 minutes avec Lani pour voir qu'est-ce qui se passe au Saguenay sur le terrain. Est-ce que le PQ va vraiment marcher sur les eaux? Tel Jésus-Christ l'a fait dans la Bible.
Mais c'est Moïse, ça, qui a séparé les eaux.
Oui, Moïse a séparé les eaux, mais Jésus a marché sur les eaux.
Dessus, hein, c'est une référence biblique. C'est à revoir.
Ouais,
ou pas.
C'est vrai. Hey, on est une société laïque, je ne peux plus faire ça. Dans un instant, Lani Dufour pour les élections partielles dans Chicoutimi aujourd'hui. PQ ou PCQ qui va gagner? Il est 13h49 minutes. L'émission On en jase qui tire à sa fin. Je vous rappelle que c'est une belle journée au niveau de la température. Moins 3 degrés, moins 6 demain, alternance de soleil et nuages et neige intermittente à moins 7. Le retour de Gravel va suivre de 14h à 18h. Ne manquez pas notamment 16h30 l'excellente chronique sur tout ce qui se passe en géopolitique du chroniqueur Éric Sauvé. On va à l'instant même à l'émission On en jase rejoindre une nouvelle chroniqueuse, Laurie Dufour, qui est directrice... Laurie Dufour, qui est directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communication et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Laurie, comment vas-tu?
Allô, ça va bien? C'est Lani, mais écoute, ça fait...
Pourquoi je dis Laurie quand c'est Lani qui est écrit devant moi? Ah bien, Lani Dufour, pardonne-moi Lani. Lani, comment ça se passe sur le terrain au niveau des élections partielles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi? Est-ce que les gens se ruent vers les bureaux de scrutin ou c'est plutôt tranquille?
L'anticipation avec qui s'est passée dans les dernières semaines, je dirais qu'il y avait moins de monde, mais là aujourd'hui... C'est une grosse fin de semaine pour les deux meneurs, là, le Parti québécois et le Parti conservateur. Je pense que les gens vont plus sortir, aller voter. Le Parti québécois est quand même reconnu aussi pour avoir une bonne machine pour la sortie de vote. On avait même le Bloc québécois qui était là en fin de semaine. Fait que je pense que ça va quand même être plus favorable là, que le presque 12% qui était allé là, avec les données préliminaires d'Élections Québec dans le vote par anticipation.
Selon ce que tu vois sur le terrain depuis quelques jours, est-ce qu'on va revenir à quelque chose un peu plus péquiste? Est-ce qu'il y a une tendance qui s'affiche? Es-tu des gens qui te parlent ou justement les gens sont un petit peu discrets dans tout ça parce qu'ils ne savent pas où se positionner, un peu comme on voit au Québec en général en ce moment?
J'ai l'impression qu'on est vraiment plus, avec ce que j'entends, là, dans une posture où c'est quasiment gagné d'avance. Puis j'aime pas ça, me mouiller trop, puis donner trop de réponses formelles, parce qu'écoute, tout peut se passer tant que le jour J n'est pas arrivé, qui est aujourd'hui. Mais on dirait que là, avec les dernières partielles qu'il y a eu, le Parti québécois qui s'est bien positionné, on est vraiment plus dans une... avec les candidats qu'on a aussi, là, tu sais, Marie-Caroline Laflamme, qui est bien connue au Saguenay, je pense qu'on est quasiment plus en mode, bon, ben, c'est quasiment gagné d'avance, elle va être la prochaine députée.
Est-ce que le Parti conservateur du Québec se classe vraiment deuxième, selon toi, avec sa candidate Catherine Morissette, parce que ça pourrait être, justement, bien se positionner pour les prochaines élections générales pour la troupe d'Éric Duhaime?
C'est vraiment un bel avant-goût, je pense, de l'élection générale de l'automne, là, à moins qu'elle soit plus tôt, mais mettons, on va y aller avec l'automne, parce que effectivement, le Parti conservateur s'est vraiment bien tiré. En fait, il y a vraiment eu un shift à la fin janvier, début février, où est-ce que là, on a le Parti conservateur qui est arrivé deuxième. Les sondages, on n'en a pas eu trop, puis on n'en aura pas parce que effectivement, c'est pas mal terminé, mais habituellement, un peu avant l'élection, on sort pas de nouveaux sondages, mais celui-là qui est sorti, je vais le dire d'emblée, là, du Parti conservateur, les mettait deuxième, et j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même une belle campagne, puis c'est ce qu'on ressentait aussi, parce que les affrontements, c'était vraiment entre les deux candidates. Le Parti libéral, avec le chef, là, oui, qui a été nommé, c'était un peu difficile. La CAQ, ben là, effectivement, c'était peut-être un petit peu plus dur aussi pour leur candidat, qui est Francis Tremblay, mais qui était quand même pris dans une posture où il n'y a pas vraiment de chef, puis les chefs sont justement venus dans la région, puis je veux pas dire que c'était pas pour lui ou que c'était pas pour les candidats, mais c'était pour leur propre chefferie. Là, on a eu beaucoup de visites dans les dernières semaines.
Lani, dis-moi donc, comment va l'idée de la souveraineté au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce que le Parti conservateur du Québec a attaqué énormément la candidate du PQ là-dessus, notamment avec un pamphlet dans les boîtes aux lettres qui a fait jaser, là.
Ça l'a fait jaser, c'est quand même marquant, là. Ça et la victoire des SAG en fin de semaine, où on avait de l'élu au pied carré, je vous le dis, c'était toujours très populaire. On a gagné, contrairement au Canada dimanche, mais si on regarde vraiment au niveau des affrontements là, plus traditionnels, souveraineté, fédéraliste, écoute, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est quand même reconnu pour ça, là. On se le cachera pas. Peut-être que je continue avec le député conservateur au fédéral, ça fait changement, mais sinon, au provincial, ça a été longtemps le Parti québécois. Au Lac-Saint-Jean, les députés fédéraux sont débloqués. Fait que cette fibre-là nationaliste, souverainiste, elle existe, elle est là. Puis je pense que ça l'accroche peut-être moins quand on vient les opposer. Mais il y en a qui sont quand même là, fédéralistes. Puis moi, je me positionne pas trop dans ce discours-là, mais ça reste que c'est une fibre qui est quand même bien présente dans la région, puis qu'on peut pas, contrairement à d'autres endroits là, au Québec, on peut pas le négliger parce que l'histoire parle pour ça.
Ça, c'est pour la fibre, OK, politique. Mais est-ce que l'engouement politique, parce que, bon, à tort ou à raison, on parle rarement de votre région, mais au Québec, on voit quand même une désillusion du côté des électeurs. Est-ce que toi qui suis la politique, qui a les deux pieds dedans, tu vois un genre de désillusion aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean quant aux candidats qui se présentent, quant à l'engouement que peut avoir une élection, etc.?
Ben, je dirais qu'on a quand même 7 candidats là, pour une partielle, donc l'engouement par rapport à ça...
Par rapport aux candidats, c'est là. Bon?
Oui, par rapport aux candidats, là, si on vient sur la souveraineté, écoute, je te dirais qu'on l'élection n'est pas tant sur la souveraineté, à mon sens, mais elle est beaucoup plus sur qu'est-ce qui s'en vient à la générale, puis qu'est-ce qui va arriver avec le prochain PM... et notamment Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Fait que, tu sais, on n'est pas tant dans le micro au terme où, bon, ben, on veut un pays. Moi, je le ressens moins, là. Tu sais, oui, il y a eu des rassemblements. Oui, les jeunes sont là, ils embarquent, mais peut-être que je me tiens pas dans les bons 5 à 7, là, mais tu sais, on me parle pas de la souveraineté.
Lani Dufour est directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte Communications et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lani, c'est pas la dernière fois qu'on se parle, c'était super intéressant. Et quand tu passes à Québec, fais-moi signe, on va t'inviter à studio avec plaisir.
Avec plaisir, bonne journée.
Salut Lani. Alors Lani Dufour que vous allez entendre dans l'émission dans Jazz, une jeune professionnelle très bien ferrée en politique. Pascal Séville, retour n'a pas été trop dur?
Très bon, très bien.
Excellent.
Content de vous retrouver.
Très content d'avoir fait de la radio avec toi. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même sur Boulevard 101. Nous, on se reparle à midi. Salut guys.